I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yeah.
Podcast. Salut, c'est Juliette Katz. Bienvenue dans le Podcast, l'émission qui refuse de se taire. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société, des conversations authentiques, sans filtre ni censure, sur des sujets parfois brûlants. Préparez-vous à être chamboulé, à rire et à peut-être penser différemment. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans ce voyage sonore où la liberté d'expression est la clé. Le podcast, c'est votre rendez-vous sans convention ni tabou. Toute personne peut voir sa vie basculer. Mais que se passe-t-il quand celle-ci passe par la case prison ? Détenu, délinquant, hors la loi, derrière ces termes se cachent des trajectoires de vie qui impliquent d'explorer l'impact des facteurs personnels et sociaux. Et lorsque la justice et la prison s'immiscent dans la vie des individus, cela n'est pas sans conséquences. Notamment lorsque l'on tente de se réinsérer. Kevin, que je reçois dans ce nouvel épisode du podcast, est justement là pour nous en parler. Salut Kevin.
Salut.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Ouais, très bien. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie ?
Alors là, actuellement, je suis barman, spécialisé dans la mixologie et la sommellerie. Initialement, j'avais fait une formation d'ingénieur en biotechnologie.
Ok.
Voilà. Et j'avais fait énormément de restauration pour payer mes études. Et après mes études, je suis retourné dans... on va dire dans ce job alimentaire, mais je me suis spécialisé après.
C'est quoi la biotechnologie ?
C'est, tu vois les laboratoires d'analyse médicale ?
Ouais.
Quand on fait des prises de sang, des frottis, des trucs, des machins, okay. Bah, moi j'analysais tout ça au début. Et après j'ai fait une spécialisation, donc j'ai deux licences professionnelles. Et la deuxième licence professionnelle m'a permis, plutôt que d'analyser les choses, de gérer tout le matériel dans les laboratoires.
Ok.
Donc installer les logiciels, les automates.
Ah donc cool.
C'est cool, c'est un peu stérile comme milieu.
C'est le cas de le dire.
Voilà. Mais c'est hyper intéressant. J'ai appris beaucoup de choses là-bas. Juste, je ne me voyais pas continuer là-dedans. C'était trop... toujours avoir un poker face au travail et pas être soi-même parce qu'on est dans un cadre très, très précis. Il y a quand même de la vie de personnes qui sont indirectement impactées par notre travail derrière.
Bien sûr, ouais.
Donc, on n'a pas trop le droit à venir en ramasse le lundi, d'être une personnalité originale au travail, tout ça. Ce qui m'a fait un peu... qui m'a fait un peu arrêter au final.
Ouais. Parce
que j'ai un peu du mal à être quelqu'un d'autre que moi-même, même au travail.
Mmh. Ok. Bon, je pose ces questions à tous mes invités, donc je vais te poser aussi ces petites questions. Si tes proches devaient décrire ta personnalité en quelques mots, ils nous diraient quoi ?
Peinture nature.
Peinture nature et non nature peinture.
Voilà, parce que je suis à l'inverse.
Ok. D'accord. Ils nous diraient ça globalement.
Ouais, clairement, ouais, je pense.
Ok. Quel est ton endroit préféré dans le monde et pourquoi ?
Ah, mon endroit préféré dans le monde, où je suis déjà allé, ou un endroit que j'aimerais... j'aimerais
aller. Un endroit, ça peut être un...
Moi, j'ai beaucoup apprécié Barcelone, j'y suis allé plusieurs fois. J'aime bien la mentalité de Marseille aussi, même si je me verrais pas y vivre, c'est trop le bordel. Comme ils disent là-bas, c'est tébé, quoi. Sinon, il y a un endroit qui me fait beaucoup rêver, c'est de vivre à Lisbonne. Je sais pas pourquoi ça me tente là-bas.
C'est cool, Lisbonne. Hein.
Ouais, apparemment.
Ouais, c'est très chouette. Ah, tu dis, t'aimerais bien vivre là-bas alors
j'ai
que t'as pas
été.
J'ai
tous mes amis qui y vont et le collectif dont je fais partie, donc on organise des festivals de musique et tout ça. On a pas mal d'artistes, mais que je suis allé voir ce week-end d'ailleurs au passage, qui viennent de là-bas.
Ok, ouais, c'est très chouette, Lisbonne.
Là, ça fait un peu petit San Francisco là, avec le tramway.
Apparemment,
là.
Ouais.
J'aime bien.
Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt ?
Impeccable.
Impeccable. Et pas impec. Tu dis impeccable.
Impeccable.
Ok. Est-ce que tu dis peccable ?
Que quand je suis dans le sud, je m'adapte.
Et qu'est-ce qui te passionne dans la vie ?
Ce qui me passionne dans la vie, bah, je pense que j'ai trouvé ma voie il y a à peu près un an, en commençant à faire de la mixologie. J'ai toujours été quelqu'un, je pensais être créatif, mais je n'avais pas trouvé un corps dans quoi. Et la mixologie, c'est en quelque sorte faire des cocktails et créer ses propres mixtures ou ses propres préparations. ça s'apparente beaucoup à de la cuisine au final.
Ah ouais.
Je cuisine énormément. Je peux pas dire que je suis un assez bon cuisinier pour prétendre d'avoir une voie là-dedans. Puis j'ai pas forcément choisi cette voie-là. Et du coup, la mixologie, bah, ça collait bien avec l'univers dans lequel j'ai toujours évolué depuis que j'ai fait mes études. Donc, la restauration, le bar. Et c'est vrai que j'ai assez vite trouvé mes marques et j'ai assez vite trouvé mes skills là-dedans.
Trop cool. Alors, rentrons dans le vif du sujet.
Bien sûr.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu dans quel environnement t'as grandi, comment était ta famille, ton parcours scolaire, tes amis?
Alors, mes parents, ils n'ont jamais été mariés, ils n'ont pas vécu longtemps ensemble.
Okay.
Mon père était videur de boîte de nuit, ma mère, elle était barman dans cette même boîte de nuit.
Ils se sont rencontrés comme ça?
Voilà, exactement. Ça a fonctionné quelques années, 4 ans à peu près, eux deux. Et quand je suis venu au monde, c'était vraiment au tout début de leur relation.
Ouais.
Et 4 ans après, bah, ils sont séparés. Donc j'ai très peu de souvenirs de mes parents ensemble. J'ai quelques souvenirs de quand j'allais voir mon père quand j'étais jeune, mais je le voyais très rarement parce que c'était pas forcément à ce moment-là le papa engagé, idéal, qui faisait bien son travail de papa et un peu une vie bordélique. Mm-hmm. Beaucoup de dettes, beaucoup de la fast life, de travailler dans des boîtes de nuit, des trucs comme ça.
Ouais.
Puis il travaillait beaucoup avec des gens pas très recommandables. Donc du coup, ma mère, elle évitait un maximum de m'envoyer chez lui.
Okay.
Du coup, il y a aussi mes grands-parents qui sont beaucoup occupés de moi quand j'étais jeune. J'ai dû passer peut-être un an et demi là-bas, le temps que ma mère se trouve une situation stable et qu'elle puisse vraiment s'occuper de moi correctement. Donc, j'ai un souvenir d'enfance où ouais, j'étais un peu à droite, à gauche, souvent avec ma mère tout seul ou chez les grands-parents, les choses comme ça. Et après, il y a mon beau-père qui est arrivé dans ma vie, qui est quelqu'un de super, quelqu'un de très formidable.
Qui est arrivé vers quel âge?
J'avais 7 ans.
Ok.
7 ans, 7 ans et demi. Je pense que ça a dû me marquer parce que j'ai commencé à avoir des comportements un peu... Ouais, j'étais un peu plus agité à ce moment-là. Alors que j'étais toujours un enfant très sage, très calme. Je pense que le fait d'avoir juste ma maman pour moi, j'avais pas envie d'être très bordélique à ce moment-là. Et puis dès qu'il y a eu le beau-papa qui est arrivé, bon, on connaît les enfants, chamboulement,
t'as
tout ça.
T'as des frères et sœurs?
Et j'en ai eu plus tard.
Ok.
J'en ai eu plus tard. Là, ils ont 20 et 22 ans, mes deux petits frères.
Et toi, t'as...
J'ai 32.
Ok.
Donc, ils sont arrivés plus tard. Ça a aussi été compliqué pour moi à ce moment-là. Mais à côté de ça...
Qu'est-ce qui a été compliqué?
Bah, je pense que quand on est jeune, avoir un beau-père, des petits frères qui arrivent, moins d'attention.
Eh ouais.
La maman qui refait sa vie de son côté.
Ouais.
C'est des trucs qu'on n'arrive peut-être pas forcément à comprendre quand on est jeune. Mmh. Surtout quand on est, c'est limite début de préadolescence, quoi. Donc, c'est vraiment pas un moment où, je pense qu'on est le mieux équipé mentalement pour faire face à tout ça.
Mmh.
Donc, j'ai eu pas mal de psychologues. À l'école, je me suis fait virer de plein d'endroits. Je vais faire peut-être 3 ou 4 écoles primaires, 3 collèges, 3 lycées.
Mmh.
Voilà. Mais vu que j'avais des capacités et que je m'en sortais bien, bah, j'ai quand même réussi à finir mon cursus scolaire. Mmh. Et à côté de ça, mon beau-père, il a réussi à offrir une super belle vie à ma mère parce qu'il a monté son entreprise d'auto-école. Il a passé tous les diplômes qu'il fallait. Ma mère, du coup, elle est devenue gestionnaire de l'auto-école.
Okay.
Mon père, lui, était professionnel de conduite. Et là, maintenant, à Lyon, il gère plusieurs auto-écoles, un centre de formation pour former, bah, du coup, les professionnels de la conduite. Et du coup, ils ont une super belle vie. Là, maintenant, une belle maison... une belle situation, ils voyagent beaucoup.
Et t'es proche d'eux
Depuis peu, oui.
Ouais.
Avant, c'était toujours un peu compliqué, surtout avec les conneries que j'ai faites. C'était très très dur d'avoir de recréer un lien de confiance avec mes parents.
Mmh.
Parce qu'ils ont dû faire pas mal de choses pour moi qui étaient un peu contre leur morale et leur éthique.
Mmh.
M'envoyer de l'argent quand j'étais en prison, venir me voir, les choses comme ça. Faire du parloir 3 fois par semaine, où tu te fais fouiller et que t'attends dans des salles avec tous les cousins, les frères de tous les délinquants, c'est des trucs qui sont un peu traumatisants, je pense, pour une mère de famille.
Mmh.
Et du coup, bah, ces derniers temps, bah, depuis 2-3 ans, je dirais, là, on s'entend vraiment super bien.
Mmh. Ok. Justement, on va vraiment parler de tout ça. Comment t'as basculé, justement, dans le monde de la drogue? Ça commence au travail, à des soirées, en faisant la teuf
Bah, bizarrement, on dit le milieu de la restauration, tout le monde se drogue. Bon, c'est pas complètement faux, mais...
Ah, je savais pas qu'on disait ça. Ok.
Ouais, bah avec les horaires qu'on fait, la fatigue, le stress, y a quand même des dérives, quoi, assez facilement. On a besoin de lâcher prise, et quand on veut lâcher prise, bah c'est déjà 1h du matin, on finit service, c'est samedi. Déjà tout le monde qui est bourré, on les rejoint, bah à un moment, faut aussi passer la deuxième, quoi, tu vois. Si tu veux pas être si tu veux pas être un peu largué. Donc ouais, c'est un milieu où ça consomme quand même pas mal. Bon, après, je pense que de nos jours, on peut dire que dans tous les milieux... les gens consomment. Hein.
Mais quand tu dis consomme, tu parles pour l'instant de l'alcool?
L'alcool, des drogues.
Okay. Ouais, drogues en particulier, tu penses?
Ouais, je pense à la coke, hein, j'ai envie de dire, facilement. Après, tout ce qui est ecstasy, kétamine, tout ça, c'est plus dans un milieu, on va on va dire un peu plus ciblés quand c'est vraiment les gens qui aiment bien faire des festivals, qui sortent vraiment beaucoup, qui sont peut-être plus attirés par la musique que par la fête.
Ouais.
Mais les gens qui ont juste envie de faire la fête et de décompresser, en général, ils tapent pas mal, quoi. Surtout après une semaine de service, à devoir faire des grands sourires à des clients qui sont pas forcément tout le temps agréables, on a envie de tenir, quoi.
Toi, c'est arrivé dans le cadre du travail.
Et bah justement, c'est un peu le cliché de base, mais moi, j'ai quand même eu peut-être 2 ans où j'ai bossé dans un resto où tous mes collègues tapaient. Et je comprenais pas des fois des réactions qu'ils avaient très impulsives. Et je comprenais pas pourquoi ils étaient tout le temps aux toilettes. J'étais con, tu vois.
Non, t'avais pas fait rien, quoi.
J'étais vraiment pur et innocent. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, les gens tapaient, c'était vraiment...
Quand tu dis taper, tu parles de prendre de la coke. Hein.
Ouais, voilà, c'est ouais. Ça. Ouais. Quand je me suis rendu compte que mes collègues de travail prenaient de la coke, même mon patron en prenait.
Hein. Okay.
Donc, quand je m'en suis rendu compte, c'était vraiment... c'était mon année de césure entre la fin de ma première licence pro et la prochaine licence pro que j'ai faite. Donc, j'ai fait 3 ans pour faire technicien de labo et juste 1 an pour me spécialiser. Et quand j'ai fait cette année de césure, là, ouais, je me suis un peu lâché, ouais. Parce que j'avais pas vraiment l'impression d'avoir trouvé ma voie et c'est là que j'ai commencé à sortir, faire la fête.
Donc, en fait, t'as fait un peu comme tes copains, comme les collègues.
Voilà.
En te disant, bon, bah, s'ils font ça, c'est que ça doit être cool, je vais tester.
Ouais, exactement.
C'est vraiment aussi naïvement que ça, tu t'es dit, je vais tester. Et donc, t'as commencé quoi avec l'alcool?
Bah, l'alcool, j'en buvais déjà beaucoup.
Ok.
Voilà, j'ai toujours bien aimé boire et des bonnes choses. Donc, c'est pas vraiment l'alcool qui m'a amené à ça. C'était vraiment le fait d'être un peu tombé des nues en mode, ah, mais en fait, tout le monde le fait, quoi.
Ok.
Et du coup, il y a eu un événement qui s'est un peu passé où je me suis pris la tête avec des gens de mon cercle proche et j'avais envie de me faire des nouveaux amis. Et je suis allé, je me rappelle, un soir, après le travail, j'étais pas bien et je suis allé bêtement dans un club dont tout le monde parlait. À cette époque-là, j'écoutais beaucoup de métal, donc c'est vraiment pas le milieu où on fait le plus la fête, on consomme. Je suis allé tout seul dans un club et j'ai rencontré des gens et ils m'ont donné de quoi me droguer et puis j'ai passé une super bonne soirée.
Et donc là, c'était de la coke.
Là, c'était de la coke, il y avait des extas...
Là, c'est la première fois que tu le faisais?
Ouais, ouais.
Et donc, t'as kiffé?
Ouais, ouais, j'ai passé une super soirée. Soirée, journée, ouais. Ça a duré longtemps, quoi.
2 mois, le truc, n'en finit plus.
C'est okay. Ça. Et puis après, je me suis mis à traîner beaucoup avec des gens qui travaillaient dans la rue où je bossais. Parce que je bossais dans une rue à Lyon qui s'appelle la rue Mercière. Mm-hmm. Et c'est une rue qui est un peu emblématique de Lyon. Il y a beaucoup de très vieux restaurants, toute la rue est pavée, piétonne. Et du coup, il y a une espèce de communauté de restaurateurs. Et qui font beaucoup la fête aussi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis beaucoup entraîné avec eux. Et puis, une chose en entraînant une autre, j'ai rencontré un cuistot qui dealait. Et du coup, bah, on s'est mis à aller en soirée tout le temps ensemble. Proximité avec le fournisseur, plus le fait qu'on s'entende bien, bah, pour moi, c'était nickel, quoi. J'avais pas besoin de m'emmerder à appeler des dealers ou à galérer à trouver ma drogue. Et puis après, les choses en entraînant une autre, bah, je me suis mis à l'aider. Vu que je suis très sociable et que tout le monde me parlait, bah, lui, il a vu... comme un petit, comme on dit dans le milieu. Mmh. Et du coup, il m'a donné beaucoup de possibilités de l'aider dans son travail. Et puis,
Mais il s'est passé combien de temps entre le moment où t'en prends pour la première fois et le moment où tu dis « je vais l'aider » ?
Bon, quelques mois.
Ah oui, d'accord, c'est relativement vite. On n'est pas sur une petite année, quoi. On
n'est
pas sur... D'accord,
ça allait très
quelques
vite.
Mois. Et tu te dis vraiment genre « je vais l'aider parce que je suis un mec sympa et que je veux lui rendre service » ou plutôt « je vais l'aider parce que je vois qu'on peut se faire de l'argent » ?
Bah, comme je t'ai expliqué, c'était un moment où j'avais... perdu vraiment tous les amis que je m'étais fait. Ouais. Il y a eu des histoires et tout, pas très intéressantes, mais des histoires, quoi. Et du coup, ce fait de dealer, bah, t'as amené à parler avec beaucoup de gens. Mm. Et les gens ont beaucoup d'intérêt à venir te voir aussi. Mm. Donc du coup, il y a aussi ce côté sociable, enfin social qui est assez intéressant. Mm. Et du coup, bah, tu te rends compte que tu fais énormément de rencontres. Et tu t'es invité de partout, les gens ont besoin de toi. Il y avait ce truc, j'avais besoin de ça à ce moment-là, je pense.
T'avais quel âge, là?
J'avais 24 ans, 23 ans. Okay. 23 ans, ouais.
Et est-ce que à ce moment-là, quand tu commences à toucher, toi, un peu à la drogue, est-ce que t'en parles un peu autour de toi? Est-ce que t'as quelqu'un dans ta vie? Est-ce que...
Au moment où j'ai commencé vraiment, non, j'avais pas de copine, mais c'est quand j'ai commencé vraiment à me mettre à dealer, bah, je me suis très vite remis à reprendre mes études pour faire ma dernière année, parce qu'il fallait quand même que je termine tout ce truc, quoi. Et j'ai rencontré une fille à Grenoble, parce que mon alternance était à Grenoble. On s'est mis très vite à vivre ensemble et puis c'est là que ça a commencé à reprendre de l'ampleur, quoi. Dès que j'ai eu mon appart à Lyon avec elle, j'avais un appart qui était plutôt grand. Parce que bon, quand t'as envie de dealer, tout le temps être dans la rue, à droite à gauche ou vivre chez tes parents, c'est pas l'idéal. Mmh. Et c'est là que ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur, quoi.
Dans la drogue, dans...
Ouais, dans la drogue, dans le deal, dans...
Ouais, ok. Et alors du coup, tu commences à aider cette personne.
Ouais.
Et donc tu commences à faire du trafic.
Exactement, ouais.
Et une journée type
Bah, une journée type, pour faire la différence entre comment j'ai commencé et comment c'était après dans mon appartement. Quand j'ai commencé, c'était juste mon pote qui m'a ramené de la drogue et puis on se posait quelque part dans un appartement d'un autre pote et puis on faisait toutes nos petites préparations pour pouvoir aller le vendre en club.
Tu faisais déjà un peu de la mixologie finalement.
Si on peut dire ça.
D'une certaine manière.
D'une certaine manière.
Mais donc là, juste à ce moment-là, c'était coke.
Il y avait de la coke et de la MD beaucoup.
Ok.
Et des tazes.
Ok. Voilà. Des extasies.
Des extasies.
Ok.
Donc entre ces deux moments-là, il s'est juste passé quelques mois.
Ok.
Et après le moment où j'ai eu mon appartement, là, clairement, les gens de 18h à minuit, c'était.
Ouais, ça faisait des allers-retours chez toi.
Constamment, ouais. Et après, ce qui restait, bah, je l'emmenais sur moi pour éventuellement vendre en club ou en after, mais c'était pas le mieux, parce que vendre en club et en after, on est nous aussi bien éméchés.
Ouais.
Et c'est pas l'endroit où on fait le plus d'argent, quoi. Même des fois, ça nous arrive d'être trop généreux. Enfin, moi, en tout cas, ça m'arrivait d'être trop généreux, quoi. Donc, je faisais toujours en sorte que tout le monde passe chez moi avant, parce que je savais qu'après, j'avais plus aucune volonté de ne plus arranger les gens, quoi.
Et t'étais tout seul chez toi?
Bah non, j'étais avec ma copine du coup à ce moment-là.
Et donc elle te voyait faire
Ah ouais, elle m'aidait aussi.
Elle t'aidait aussi, ah ok. Ouais. Donc elle avait un peu sa com.
C'est ça, ouais, exactement, ouais, on peut dire ça.
Vous partagez entre vous.
Bah, on va dire qu'elle n'avait pas de travail à cette époque-là, elle était étudiante, donc c'est moi qui payais pratiquement tout. Donc c'était aussi sa façon de me remercier, je pense.
À ce moment-là où tu deals tout ça et tout, toi tu continues d'en prendre?
Ouais, puis j'en prends énormément à ce moment-là.
Donc ça veut dire que quand tu en vends, t'es déjà ailleurs en fait dans ta tête?
Bah quand les gens passent chez moi, je prends de la coke avec eux, les gens passent, on goûte, on fait des traces, il y a pas de souci. Par contre, dès que j'arrive en club, là, ça fait 5-6 heures que je me tape des gens chez moi à négocier, de vendre et tout. Là, c'est le moment où j'ai envie de déconnecter ou oui, je prends peut-être des fois des amphètes ou des extasies histoire de lâcher prise un peu quoi.
Un peu plus.
Bah, je trouve pas que la coke ça fasse trop lâcher prise. Moi,
jamais testé.
Ok.
Et je n'ai fumé que des joints, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs. Mais la coke en fait pour moi c'est un truc qui te speed
un peu.
Ouais,
voilà, ça speed, ça te. Je sais pas si t'as déjà vu le film Limitless.
Non.
C'est un gars qui prend des petits cachetons et qui est 10 fois plus intelligent. Bah, c'est un peu l'impression que t'as. Sauf quand t'en prends trop ou que t'en prends mal. Où là, tu deviens juste un connard aigri qui parle mal et qui coupe la parole aux gens.
Ouais.
Mais ouais, quand t'en prends d'une certaine façon et que tu bois, que t'arrives à bien balancer le tout, ouais, t'as l'impression que t'as toujours la tchatch, le truc à dire, t'es jamais fatigué. Toi, t'arrives juste au bout d'un moment d'avoir les yeux un peu sombres et on voit que dans ton regard, t'as consommé. Mais ouais, c'est un peu l'effet que ça fait, ouais.
Et ta famille, elle est au courant en ce moment-là?
Ah bah, elle a dû l'être, ouais. Mais pas à ce moment-là, non.
Je parle vraiment de ce moment-là.
À ce moment-là, non, elle était pas au courant. Elle voyait juste que je venais plus au repas de famille, que quand j'y allais, j'étais tout le temps fatigué. Il commençait un peu à s'inquiéter, quoi. J'avais perdu du poids.
Ouais.
Parce que bon, quand on tape, on mange pas. Ça coupe l'appétit.
D'accord.
Donc, du coup, quand tu passes un week-end à taper, ton week-end commence le jeudi, qui se termine le lundi matin, ça fait quand même une demi-semaine où t'as pratiquement pas mangé, quoi.
Parce que là, à ce moment-là, ça devient ton boulot à part entière, au final.
Ouais, mais je fais quand même mon alternance. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, je suis soit en cours, soit en stage.
Et là, t'es clean?
Bah, clean. J'ai mon week-end dans les pattes, mais ouais, c'est vrai que du lundi au jeudi, je prenais rien.
Rien? Ah ouais.
Ouais.
C'est fou quand même, ça. T'avais vraiment ce truc de balance entre je me mets une race vraiment à fond le week-end, et puis par contre, la semaine, je fais rien du tout, quoi. Tu tenais à ce truc-là.
Ouais, puis je pense que c'est ce qui. C'est un peu ce qui m'a aidé dans le sens où peut-être de m'habituer à ça. C'est un peu ce qui m'a aussi aidé à des fois faire la part des choses. Parce que là, je connais des gens qui consomment et même je vois là en soirée, des fois quand je suis là, il y a des gens vraiment, ils ont un problème avec ça, quoi.
Ouais.
Ils font une trace et puis le premier truc qui les intéresse et qu'ils l'ont tapé, c'est quand est-ce qu'ils vont reprendre une deuxième.
Ouais, c'est.
Il y a ce truc un peu malsain où moi j'aime bien consommer pour faire la fête. Pour rigoler, j'ai pas envie que ça soit genre tout soit autour de ça, quoi. Donc,
mais ça t'est arrivé de faire la fête sans rien consommer?
Bah, ça m'arrive de le faire encore maintenant même.
Ouais,
c'est pas un souci. Ouais. Mais après, c'est vrai que quand t'évolues dans un milieu où c'est quand même assez présent et ça t'aide des fois peut-être plus à apprécier la musique ou l'apprécier différemment, parce qu'on va pas se mentir, c'est ce que ça fait. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont un peu du mal à fonctionner sans, quoi. C'est un peu, un des moteurs de leur soirée, quoi.
Et donc, à ce moment-là, donc t'es avec ta nana qui en prend, etc. Ok, t'en vends, tu vas à des soirées, donc tu te mets à... Enfin, t'es à fond, quoi.
Ouais.
Et puis après, t'arrêtes pour l'alternance et tout. Est-ce qu'à ce moment-là, tu commences un peu à t'inquiéter, à te dire « Ah, pas pas fifou tout ça.
Bah,
ou alors t'y vas quoi.
Non,
ou alors
pas.
T'as conscience du truc mais tu veux pas le voir.
Bah oui, d'un côté je me disais que... En fait, ce qui me faisait plus réfléchir, c'était plus le fait qu'au bout d'un moment, tout le monde me connaissait.
En fait, c'est ça ce que j'allais dire. Est-ce que t'as un moment tu t'es dit, attends là, ça devient peut-être un peu dangereux. En fait, pas tant que moi je me mette dans cet état-là, mais d'en vendre, de machin. Est-ce que...
Bah, c'est vrai que c'était pas tant ma santé qui m'inquiétait, parce que je me trouvais. Enfin, j'aimais bien ma vie. En fait, tu vois, je faisais des belles rencontres, je m'amusais beaucoup. Puis à côté de ça, j'étais très très bon à mon alternance. Donc. Dans ma tête, je me suis dit, bon, je suis peut-être un peu bizarre, mais ça roule, quoi. Mais par contre, là où ça m'inquiétait, ouais, c'est que quand ça a commencé à prendre une ampleur, quand il y a une soixantaine de personnes qui passent chez toi le vendredi soir et le samedi soir, et que la semaine, quand t'es en alternance, on t'envoie plein de messages en te disant, t'es là, t'es dispo. Ouais. Quand ça commence vraiment à te bouffer trop ton temps et que t'arrives même plus à faire la fête comme tu le faisais au début parce que t'es vraiment considéré comme un dealer, là, tu commences à dire, c'est chiant, quoi.
Mais c'est chiant. Juste entre guillemets parce que ça me prend tout mon temps et que j'ai plus de vie avec ma nana, etc.
Ouais, ouais.
Ou alors tu commences aussi à te dire j'ai un peu peur de ce qui peut arriver de me faire prendre
Bah, clairement les deux. Hein.
Ouais, c'est un mélange de plein de trucs. Quoi. Okay. Et du coup, un jour, toi et les autres, vous êtes fait arrêter.
Ouais, un matin, comme ils aiment bien faire, à 6h. C'était un matin, je me rappelle, je sais pas si tu connais le Festival des Nuits Sonores à Lyon. Donc du coup, c'est un gros festival. Et puis nous, on avait reçu énormément, mais vraiment énormément de drogue en prévision de ce festival. Parce qu'on s'est dit, bon, au pire, là, je pensais déjà arrêter. Et du coup, mes potes aussi commençaient déjà un peu à s'inquiéter. On avait déjà fait plusieurs séjours en garde à vue. On avait déjà fait... moi, j'ai déjà été cambriolé deux fois. Du coup, là, on s'était dit, ouais, bah pas de la concurrence. Hein. C'est pas que dans les films...
Donc il y a des gens qui sont venus chez toi,
qui
ont tout volé.
Qui m'ont braqué avec un flingue, un couteau, pour essayer de me prendre de la drogue, de l'argent.
Comment t'as vécu ça ?
Moi, ça allait. Ma copine, clairement, à ce moment-là, ça l'a un peu traumatisé, quoi.
Pardon, mais comment ça peut aller pour toi d'avoir un flingue sur la tempe ?
Je sais pas, peut-être qu'à ce moment-là, j'étais vraiment tellement déconnecté de la vraie vie que je me suis dit, ouais, bah, c'est normal, je suis tellement en place que les gens, ils viennent me braquer, quoi.
Ok. Ouais,
donc, en fait, ça m'étonnait pas que ma copine s'en rende pas compte parce que même si elle m'aidait, elle était pas non plus à ma place. Donc, je suis à choc, ouais. Je peux m'en rendre compte. Mais moi, je brassais tellement d'argent à ce moment-là que je me suis dit, ouais, bah, au bout d'un moment, si dans les films, il y a des guerres de gangs, je sais pas pourquoi en vraie vie, ça serait pas comme ça non plus, quoi.
Tu gagnais combien à peu près à ce moment-là?
C'est un peu un truc que j'ai du mal à estimer parce que je suis quelqu'un, vraiment, j'adore dépenser de l'argent, malheureusement. Et j'en dépensais pratiquement autant que j'en gagnais.
D'accord.
Et j'avais vraiment un train de vie où pour donner une ordre d'idée, vraiment, je dépensais sans compter.
Okay.
Tout ce que je voulais, je l'achetais sans aucun problème.
Donc tu sais pas si c'était 2000 euros ou 60 000 euros,
Ce que je peux te dire, c'est pendant les nuits sonores, c'est le seul moment où je me suis vraiment posé pour bien compter, faire les comptes et tout ça. Donc c'est un festival qui dure pratiquement une semaine. Je m'étais fait 15 000 euros.
En une semaine?
Ouais.
Oui, donc, attends, je suis très mauvaise en maths. On est sur un 60 000 euros par mois. À peu près.
S'il n'y avait que des festivals de nuit sonore,
ouais,
oui.
Voilà. Donc, s'il n'y a pas que des festivals, et bah, t'es sur un 30, quoi.
Ouais, je pense. Alors, après, ça dépend des mois, ça dépend de plein de trucs, mais.
Enfin, c'était jamais en dessous
de 10
000.
Je me faisais plusieurs milliers d'euros par mois,
ouais.
Facilement.
Et en fait, tu continues de faire ça parce que tu dis, tu continues de vendre parce que ça te fait des sous.
Ouais, et puis en fait.
Est-ce que c'est uniquement pour cette raison-là que tu continues?
Bah oui, surtout pour ça, et surtout parce que, en fait, je me dis que j'arrive pas à gérer mon argent, et tant que j'en gagne pas beaucoup. Ma vie, elle sera pas normale, quoi.
Ah, donc t'avais l'impression à ce moment-là que tu gagnais pas beaucoup d'argent?
Bah si, j'avais l'impression, mais je me disais que si j'arrêtais, j'allais vraiment dans la merde, quoi.
T'arrivais pas à être dans la nuance, quoi.
Ouais. Je traîne dans les extrêmes dans la vie.
T'arrivais pas à dire, oh, je vais mettre un peu de côté. Après, c'est compliqué parce que c'est du cash aussi.
Ouais,
tu peux pas mettre ça en banque n'importe comment et tout.
Ouais.
Bon, et donc pour revenir à ce truc-là, donc t'as fait de la garde à vue, etc. Mais il y a un jour où vous vous faites arrêter donc à 6h du mat. Ouais.
Donc après les nuits sonores. Et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment... je m'étais fait 15 000 balles et c'était vraiment le moment où je me dis bon, je suis parti à Barcelone. Donc en plus, on en parlait tout à l'heure. Donc c'était après les nuits sonores, on se fait une semaine à Barcelone avec les gars avec qui je travaille. Et on kiffe, on profite. Et en revenant de Barcelone, bah voilà, me faire une semaine sans dealer à Barcelone, qui est une super belle ville. Je me suis dit, en fait, c'est quand même mieux la vie quand on peut là en profiter et pas être un dealer. Et j'étais vraiment en train de tout mettre en place dans ma vie, repenser mes choix professionnels, tout, pour me dire, voilà, c'est bon, faut que j'arrête. Puis avec ma copine, ça a commencé un peu à battre de l'aile. J'avais vraiment envie de la garder. Et
ça battait de l'aile pour.
Bah ça battait de l'aile. Je sais pas, à tous les niveaux, quoi. On se prenait la tête. Enfin, quand on se drogue, on a des réactions qui sont des fois dégueulasses, quoi. Donc, des fois, on parle mal, on se prend pour quelqu'un d'autre. Puis moi, j'avais vraiment le melon à ce moment-là. Je pouvais vraiment mal parler aux gens.
T'avais confiance, quoi.
Ouais, j'avais trop confiance en moi. Et quand on a trop confiance en soi, bah, des fois, on peut être vraiment irrespectueux envers les autres. Et du coup, je lui ai manqué de respect plein de fois. Et il y a un moment, je me suis dit, je peux pas lui faire vivre ça plus longtemps, quoi. Donc, je pensais vraiment arrêter. Et quand je suis revenu de Barcelone, bah, malheureusement, on s'est séparés à ce moment-là. Enfin, on a vraiment fait une espèce de pause. Parce que j'avais besoin d'être seul, de tout remettre en place. Et pendant cette pause-là, à 6 heures du matin, on était en after avec un pote à moi, tatoueur, et deux filles qu'on venait de rencontrer. On faisait la fête. Et puis, là, les flics qui sont arrivées, bah, c'est la BRI qui nous a arrêtés. Donc, la BRI, c'est comme dans les films, quoi. Ils ont des cagoules, des mitraillettes.
BRI, ça veut dire?
C'est Brigade Rapide d'Intervention.
Okay.
C'est quand il y a du terrorisme, des trucs comme ça, c'est aussi qu'ils interviennent, quoi. Donc, ils sont arrivés dans l'appartement à 6h du matin et nous, on était déjà défoncés. On sortait de soirée, ça nous a interpellés, quoi. On était là en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Je pensais que moi, si un jour je me ferais arrêter, c'est genre une convocation ou un truc comme ça.
Oui, un truc sympa.
Ah ouais, là, je pense que je m'attendais pas à ça du tout, quoi.
On va faire une petite parenthèse, on continuera après. Une petite parenthèse qui s'appelle Donne ta langue aux Katz, parce que je m'appelle Juliette Katz.
Ok.
Pour ça. Devant toi, tu as des cartes sur lesquelles sont inscrites des émotions qui vont te permettre de parler de toi. Il y a la joie, la peur, le dégoût, la tristesse et la colère. Je t'invite à choisir une émotion et ensuite tu vas piocher dans ce tas une carte au hasard.
Ok.
Donc, est-ce qu'il y a une émotion qui te parle plus qu'une autre?
Par rapport à ce qui m'est arrivé?
Non. C'est vraiment ce que tu veux. Et donc là, t'es parti sur la joie. Donc là, tu prends une carte au hasard sans regarder. Mais là, tu les regardes, là.
Bah ouais, mais elles sont pas dans le bon...
Faut pas les regarder, tu prends au hasard.
Ouais,
lève tes yeux.
Excuse-moi.
Et là, tu en chopes une.
Hop là.
Et j'aime bien que tu nous la décrives, ce qu'il y a comme mot et le petit dessin.
Alors, calme.
Okay.
Avec un petit bonhomme, avec un épi de maïs ou un truc comme ça dans la bouche à la Lucky Luke.
Ok.
Allongé dans l'herbe, sur le dos.
Ok.
Voilà.
Pourquoi t'as choisi la joie plus que... les autres émotions?
Bon, parce que c'est une émotion qui me guide pas mal dans ma vie en général.
Ok. Est-ce que ça te parle un peu ce
calme? Ouais, c'est ce que j'ai réussi à trouver après tout ça, en fait.
Ah.
Ouais.
Parce que t'étais pas calme avant, ou t'étais un faux calme?
Alors, je le suis toujours pas.
Ok.
Mais c'est quelque chose que j'aime bien être.
T'aimes bien être calme.
Voilà.
Et quand t'arrives à approcher ça de toi.
Ouais, ça me fait du bien.
Ça te fait du bien.
Ouais, de ouf.
Mais t'as du mal à être calme. En même temps, qui peut être calme constamment?
Bah, les vieux sages.
Peut-être que tu y arriveras, on en reparlera dans
J'espère.
50 ans. Mais en tout cas, c'est quelque chose que t'aimes chez toi quand t'arrives à être dans cet état-là.
Ouais, ouais, carrément, ouais.
Ok. Bah voilà, c'est tout. C'était une petite parenthèse. Tu peux reposer ta petite carte. Donc, ils viennent, ils arrivent. Là, tu t'y attends pas. Donc, j'imagine que ça doit être un choc quand même assez...
Ah
ça
ouais,
doit être
oui.
hyper brutal. Hein.
Ah ouais, c'était hyper brutal.
C'est le but aussi, j'imagine.
Ah, et pour te dire, quand ils m'ont allumé droit, j'arrêtais pas de répéter comme un débile, mais je suis juste client, je suis juste consommateur. Et le mec, il m'a regardé, non mais il fait, mais attends, tu sais combien ça coûte une opération de police comme ça? Il me dit, on sait que t'es pas juste client.
Ouais.
Donc là, j'ai compris qu'il fallait que je ferme ma gueule.
Et donc, après, qu'est-ce qui se passe?
Bah, ils me descendent en bas avec un truc sur la tête parce que bon, c'est mon quartier.
Ah oui.
Ah ouais, ouais, ils veulent pas que.
Qu'on te reconnaisse
ouais,
ou que
voilà,
tu.
Voilà, on sait jamais. On sait qu'il peut se passer plein de trucs par rapport à ça, donc il faut pas que ça se sache. Et quand je remonte dans le fourgon, je me rends compte qu'en fait, il y en a 5 ou 6 de garés devant chez moi. Donc là, je me dis, ah ouais, quand même, il y a énormément de monde. Tout le monde est dans la rue, avec les téléphones, les trucs, les machins. J'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression d'être dans un film, quoi.
Et là, t'es tout seul. Enfin, t'es tout seul avec eux.
Ouais, je suis tout seul avec eux. Les 3 autres personnes qui étaient avec moi, en fait, ça faisait quand même plusieurs mois qu'ils me surveillaient. Ils savaient très bien qu'ils avaient rien à voir avec tout ça. Donc, ils sont même pas allés en garde à vue, ni rien. Juste les deux filles. J'ai plus de contact avec elles.
C'est qui ces deux filles?
C'était deux filles avec qui on faisait la fête.
Voilà.
C'est souvent ça, les soirées où on prend de la drogue, on s'amuse, on fait souvent des rencontres avec des gens et puis, finit par faire la fête avec eux, quoi. Donc c'était des filles que je connaissais pas très bien depuis longtemps et j'ai réussi à avoir des nouvelles d'elles plus tard et vraiment ça les a pas mis bien, quoi. Elles en ont fait des cauchemars, elles ont plus voulu sortir, ouais, ça les a choquées un peu.
Du coup, la machine judiciaire, elle se met en marche.
Ouais.
Comment ça commence pour toi? Comment ça se passe?
Bah, ça commence par une semaine de garde à vue déjà.
Ok.
ça va que les gars de la BRI, en vrai, c'était cool. Enfin, cool. Et la journée, je dormais pas dans ma cellule. Okay. J'étais dans le commissaire, il avait une espèce de petite salle d'attente. Et il me laissait dedans avec des bouquins, des boissons. Parce qu'en vrai, il me disait qu'il avait un peu de la peine pour moi, parce qu'en fait, vu qu'il m'écoutait depuis longtemps, il me disait que de tous les gars qui s'avaient suivis pour des affaires et tout, ils avaient quand même pas mal d'empathie pour moi. Ils me l'ont dit direct. Et il me disait, on voit pas pourquoi t'as fait tout ça, en fait. Il me dit, ouais. Mais il me dit, on voit tes messages, tes écoutes téléphoniques, ce que tu fais de ta vie. Et il me dit, t'as quand même l'air d'être un gars plutôt sympa. Il me dit, nous, les
caïds, quoi.
Ouais, les gars. Ouais, moi, je suis pas le genre de gars qui allait. Des fois, j'avais trop confiance en moi, mais je me suis jamais battu. J'ai jamais mis de coup de pression à quelqu'un. Même des fois, il y a des gens qui me devaient de la thune. Je préférais m'arranger autrement avec eux plutôt que de m'embrouiller avec eux. Mmh. Donc, et puis même des fois, il y en a, j'ai lâché l'affaire, quoi. Je voyais qu'ils étaient trop en galère et qu'ils étaient endettés. Ça m'est déjà arrivé de dire, bon, vas-y, plaque, on verra ça plus tard, quoi.
Mais tu devais des ordres à quelqu'un ou pas? Parce que vu qu'on te donnait de la drogue, du coup, j'imagine que tu devais.
On fonctionnait à trois, en fait. Donc, on mettait en commun l'argent, on faisait des grosses commandes, et puis après, on avait tous les trois notre réseau. Mais c'était un réseau qui était assez commun, quoi. Quand mon collègue, il était pas dispo pour ses clients, il me les envoyait. Je lui mettais son argent de côté, vice versa.
Ça se passait bien.
Ça se passait bien. Et puis, dans ces deux collègues, on n'avait quand même pas exactement le même cercle de fréquentation. Donc, il y en avait un, lui, il traînait qu'avec des gars de banlieue, pas très recommandables, il faisait son bise avec eux. Il y en a un autre, il sortait plus avec des gens, un peu de la jet set, des trucs comme ça. Et moi, j'étais vraiment dans le milieu, musique, techno, tough. Et puis, du coup, ça fonctionnait bien comme ça, quoi.
Ouais. Ok. Donc là, tu fais une semaine de garde à vue. Mmh. On te laisse sortir, enfin, t'es pas obligé de dormir dans ta cellule. Mmh. Et après, qu'est-ce qui se passe?
Après, directement, comparution immédiate, tribunal, le tribunal de justice. Là, c'est pas mon vrai procès, c'est juste là où on va me dire ce qu'on me reproche et m'expliquer que vis-à-vis de ça, on est obligé de t'incarcérer directement, quoi.
Et comment tu vis tout ça?
Oh, je suis choqué de ouf, là, vraiment. Ouais. Je me dis, ok, j'ai fait des conneries, je me rends compte, mais pour moi, dans ma tête, j'avais quand même espoir de pouvoir être dehors en attendant d'être jugé. Et du coup, je comprenais pas. Je disais pas que c'était une injustice, mais c'est là que j'ai vraiment réalisé tout ce qui m'était arrivé, quoi.
Et à ce moment-là, tes parents sont au courant?
J'ai fait la connerie, moi, quand ils m'ont proposé d'appeler quelqu'un. J'ai fait la connerie de vouloir appeler mon ex.
Ouais.
Parce qu'on est en plus, on était en pause à ce moment-là et il y avait mes chats à la maison. Il y avait plein de trucs que je voulais gérer. Et puis j'avais vraiment envie de lui parler à elle. Ouais. Et j'ai pas réussi à la joindre parce qu'évidemment, elle aussi, elle s'est fait arrêter. Vu qu'elle m'a aidé pendant pratiquement un an et demi. Mmh. Et du coup, après, j'ai dû attendre un moment avant que mes parents soient au courant, quoi.
Mmh. Donc là, t'arrives en prison, au final. Comment tu t'occupes Parce que tu dois arriver dans un univers que tu connais pas du tout. Ou alors tu connais un petit peu des gens qui avaient déjà été en prison.
Bizarrement, non.
Ouais.
J'avais connu personne qui avait fait de la prison avant ça. Et là, quand j'arrive en prison, on arrive dans un quartier qui s'appelle le quartier des arrivants. C'est un endroit où ils te laissent pendant une semaine, où t'es qu'avec les gens qui viennent d'arriver. Donc, t'es plutôt en petite communauté, quoi. Mmh. Puis là, t'as commencé à avoir des entretiens avec psychologue, médecin, directeur de la prison, ou la personne qui est en charge de dispatcher les gens. Je pense que chaque prison fonctionne différemment, même s'il y a des points communs en fonction de l'organisation de la prison, ça doit un peu bouger, mais les grandes lignes, c'est ça. Et là, le gars, en fonction de ta personnalité, de ce que t'as fait, de tes entretiens, il te dispatche dans les bons quartiers pour que ton incarcération...
Se passe au mieux, quoi.
Au mieux, ouais.
En fait, parce que nous, d'un point de vue très extérieur, où on ne connaît pas la prison, où on a juste des documentaires et des reportages, etc., il se dégage un truc quand même hyper dur, effrayant, d'une solitude, d'un danger, baston, de trucs comme ça. Est-ce que c'est ce que tu découvres?
Ouais, mais il y a quand même un truc qui est assez bien fait, on va dire, c'est que c'est pas comme dans les films où on peut tous se mélanger comme ça très facilement, quoi.
Ouais.
Il y a quand même un truc où moi je suis dans une maison d'arrêt. Maison d'arrêt, c'est les courtes peines et les gens qui sont en attente de jugement. Donc en général, ils ne restent pas plus de 2-3 ans, ces gens-là. C'est très très peu, il y a très peu de circulation. Donc on est dans sa cellule, seul ou à deux.
Toi, t'étais seul ou à deux?
Non, j'étais avec un autre gars au début.
Avec qui ça a bien matché?
Pas du tout.
Ok.
Ah non, c'était un violeur, donc ces gens-là, moi, je peux pas. En plus, il s'est fait arrêter pour avoir violé une fille. Je sais pas s'il en a violé d'autres. C'était une fille qui fréquentait un club où j'allais, de Lyon. Un club où j'allais très souvent. Donc, ouais, il y a des trucs comme ça. Il y en a, t'as pas envie de bien t'entendre avec eux, quoi.
Mais il s'est passé quelque chose entre vous?
Ou juste... Non, c'est pas embrouillé ni quoi que ce soit, c'est dans l'intérêt de personne. Ouais. Mais juste, j'avais pas envie de lier des liens avec lui, quoi.
On t'a mis dans une cellule.
Avec lui, ouais.
Et après, on a pu te mettre tout seul ?
Non, après, je me suis rendu compte qu'il y avait un gars avec qui je trafiquais à ce moment-là, enfin, juste avant d'aller en prison, qui s'était aussi fait arrêter. Il s'est fait arrêter, en fait, en même temps que moi. Hein. Mmh. En fait, on avait. Il y a eu 60 interpellations le matin de mon arrestation. Parce qu'en fait, moi, il y avait des gens, il y avait des gens qui me prenaient juste leur drogue pour le week-end. Puis il y en a qui prenaient leur drogue pour tous les amis. Puis il y en a qui faisaient comme moi, en fait. Sauf qu'ils m'achetaient à moi. Mmh. Ah, ils n'avaient pas peut-être forcément les mêmes prix parce que j'étais l'intermédiaire en plus. Mmh. Mais vu la demande à Lyon, franchement, des fois, il y en a 10 ou 15 balles de différence. Ils s'en foutent, quoi.
Ouais.
Tant qu'ils ont un dealer avec qui ils s'entendent bien, qui peut se déplacer et être là quand ils en ont besoin. Mmh. Et du coup, je me rends compte qu'à ce gars-là, on est très content de se retrouver quand même. Parce que c'est un gars avec qui j'avais déjà fait la fête, qui venait souvent chez moi à choper. Donc du coup, à ce moment-là, j'étais assez content. Et puis, on a fait une demande pour être ensemble. Et à ce moment-là, la demande, elle était acceptée. Et puis, on a pu passer 4 mois ensemble.
Parce que du coup, là, t'es dans cette maison d'arrêt sans savoir combien de temps tu vas rester. Combien de temps
non,
t'as
non,
pris.
Non, j'en sais rien
tu
du tout à ce moment-là. Ah ouais, c'est le flou total.
Ah, ça doit être difficile de te dire, je ne sais pas combien de temps je vais être là.
Mais je pense que c'est pour tout le monde pareil, hein, quand on arrive en maison d'arrêt.
Ouais. Et donc là, t'es resté 4 mois avec lui.
4 mois avec lui, ouais.
Est-ce que ça t'a aidé de... garder un peu le moral de ou alors c'est
arrivé. Bon, sa présence elle m'a pas tant aidé parce que le mec est parti en dépression.
Ouais.
Il y a une expression qu'on utilise en pression, on dit les cachetonnés.
Ouais.
C'est ceux qui prennent à balle de cachet pour oublier qu'ils sont là.
OK.
Donc ils vont voir les psychologues, ils leur racontent ce qu'ils ont envie de leur raconter, hein. Il y en a plein qui jouent la comédie pour avoir des trucs bien puissants. Enfin, c'est pas des psychologues du coup, c'est des médecins,
psychiatres.
Des psychiatres, voilà. Et du coup, lui, il se défonçait la gueule au cacheton du matin au soir. Pendant 3 mois et demi, il n'a pas pris une seule douche.
Ok. Ok.
Ah ouais, déprimé, à dire des trucs incohérents, pleurer tout le temps. Enfin, du coup, bon, je préfère être avec un gars que je connais qui est pas bien qu'avec un violeur qui est bien. Hein, on va pas se mentir. Mmh. Mais ouais, au bout d'un moment, c'est limite toi qui es obligé de lui mettre un seau d'eau sur la gueule pour qu'il veuille bien consentir à avoir un minimum d'hygiène, c'est chiant, quoi.
Ouais, ouais. Toi, t'as pas du tout pris de cachet
Alors, moi, j'ai réussi à avoir des somnifères, pas les plus puissants. Et c'était juste pour vraiment, des fois, de temps en temps, en prendre. Mais quand on prend des somnifères le soir, le matin, c'est tellement... c'est tellement dur de se réveiller que...
Ah ouais.
En fait, là-bas, on n'avait pas de douche dans la cellule. Mmh. On a des gants de toilette et des éviers, tu vois. Mais prendre une douche, c'est quand même pas la même chose que de se laver aux gants tout le temps. Mmh. Et les douches, c'était que 3 fois par semaine. Donc le lundi, le mercredi et le vendredi. Et il fallait être levé à 7h du matin, en peignoir, avec ses claquettes, devant la porte, au branle-bas de combat, quoi.
Mmh.
Donc, quand tu prends des somnifères, t'arrives pas à faire ça.
Ah bah oui.
Surtout que là-bas, en prison, on pouvait facilement se procurer du shit.
Bah, comment c'est possible ?
Oh, y a plein de techniques, ça. Il y a plein de techniques. Il y en a des gens à l'extérieur, des fois, qui balancent juste des projectiles avec des trucs dedans.
Ah ouais ?
T'en as qui font passer ça par les parloirs. T'as plein de façons de faire. Même des fois, moi, je l'ai pas vu directement, mais moi, ça m'est déjà arrivé qu'un surveillant m'amène mon shit.
Ah ouais.
Ouais ouais. Bah après eux ils vivent aussi ils vivent pas dans la prison mais ils y passent beaucoup de temps. Mmh. Je peux comprendre qu'au bout d'un moment ça reste quand même un métier précaire d'être surveillant de prison. C'est pas le métier le mieux payé du monde avec les meilleures conditions. Je pense que aussi au bout d'un moment ils ont envie que ça se passe bien leur routine. Mmh. Si pour ça faut passer une boîte d'une porte à une autre sans regarder ce qu'il y a dedans, ils le font, ils s'en foutent, quoi.
Et donc toi t'arrivais à pouvoir
sans problème.
Ouais.
Moi j'avais de la chance, j'ai réussi à passer un diplôme en prison.
Ouais.
Donc un diplôme de gestion et de création d'entreprise.
Okay.
C'est pas très compliqué, c'est un peu ce que je faisais avant. Mais du coup, je suis super bien entendu avec le prof. Et en fait, là, on était mélangés avec plein de gens de plusieurs bâtiments. Parce que moi, j'étais dans le bâtiment des gens, entre guillemets, protégés et vulnérables. Mm-hmm. Ils estimaient que j'étais pas un danger, donc les autres en étaient pour moi. Et du coup, j'étais mélangé avec un autre bâtiment, avec des gens peut-être un peu moins recommandable. Et du coup, on avait cours tous ensemble. Et là, c'est le moment où on se faisait passer le plus de trucs, quoi.
Ah ouais.
Ah ouais.
C'est-à-dire, on se faisait passer des trucs.
On cache des trucs sur nous. Et puis, t'as besoin souvent de la drogue, hein. Mais même des fois, il y en a qui se passaient de l'argent, il y en a qui se passaient des téléphones. Donc, il y a ça. Il y a aussi à la messe. J'allais à la messe tous les dimanches. Parce que j'ai une éducation catholique, mais. Je pratique pas, mais là, du coup, je me suis dit, bon, en fait, il faut s'occuper en prison. Donc, tout ce qu'on te propose de faire, tu dis oui, tu réfléchis pas. Mmh. Et dès qu'il y a des endroits où on est tous ensemble, surtout quand c'est des gens qui viennent pas exactement des mêmes bâtiments, c'est le moment où on peut se faire passer le plus de trucs, quoi.
Mmh. Parce que je me demande comment ça se passe un peu une journée type, tu vois, de... enfin une journée type, dans, en prison, parce que les journées elles doivent te paraître très longues, non?
Quand tu t'occupes, non, ça va, mais c'est vrai que la journée type elle est un peu... quand tu te douches, du coup elle commence à 7h du matin, tu reviens de la douche, ça doit être 7h30, 7h45, un truc comme ça. Tu reviens de la douche, tu prends ton petit-déj, parce qu'on a quand même... on est un peu équipé dans nos cellules. La prison digitale est très vieille, donc c'était dur d'avoir les équipements qu'on voulait. Il fallait faire des demandes, il fallait payer. Tu vas avoir une plaque de cuisson avec une casserole, il faut payer. Mmh. Et le pire, c'est que même si tu veux et que tu payes, il faut qu'il y en ait des disponibles.
Ah oui, d'accord.
Et puis, ils ne font pas en sorte non plus qu'il y en ait pour tout le monde. Donc, tu prends ton petit-déj, ce que tu peux cantiner en prison. Donc, cantiner, c'est que tu as une espèce de feuille avec des produits. Puis, tu coches les produits que tu veux et puis tu les reçois 3 semaines après.
Ah oui.
Il faut même que tu fasses un suivi de ce que tu as commandé pour éviter des fois de commander des trucs en double. Donc c'est un peu une gestion à faire. Et une fois que tu as tous tes produits, on a un petit frigo quand même. On a des couverts, enfin on a vraiment en mode camping un peu, on est quoi. Mmh. Et du coup, on prend le petit-déj. Après, on a une promenade en général. Je crois qu'elle était vers 10 ou 11 heures, ou à 10 heures, un truc comme ça.
Et là, vous êtes tous mélangés?
Il y a plusieurs promenades dans la prison. Et même des fois, par bâtiment, tu as plusieurs promenades. C'est-à-dire que même si on est dans la même aile, il se peut qu'on soit dispatché pour être promené. Mmh. Parce que, ils font attention. C'est comme les animateurs en colo, quoi. Ils peuvent pas. S'il y a des gens dans une promenade, il faut qu'il y ait un nombre suffisant de surveillants autour.
Et t'as assisté à des choses
Écoute, j'ai vu des choses. J'ai vu des bagarres, j'ai vu des insultes, j'ai vu du harcèlement, j'ai vu des gens devenir fous, j'ai vu quelqu'un se mettre feu dans sa cellule le soir. Wow. Il a essayé de se suicider en s'immolant.
Tu l'as vu, ça?
On a vu la fumée sortir de sa cellule, en fait.
Oh,
donc, nous, on a des interphones.
Ouais.
Sauf que tu te doutes bien que les interphones, il y en a qui s'en servent pour tout et pour n'importe quoi. Donc, du coup, les surveillants ne sont pas très réceptifs quand on sonne. Et là, ce soir-là, on a dû sonner pendant peut-être 3 quarts d'heure à crier à la fenêtre. Parce que, ça reste quelqu'un qui est en train de mourir, quand même. Donc, même si on ne l'aime pas, on prévient. Et on a sonné pendant 3 quarts d'heure avant que les matons ils décident à faire quelque chose, quoi.
Mmh.
Donc vraiment, après c'était en pleine nuit, donc peut-être un peu moins de présence. Mais je me dis que quand le standard il sonne pendant 45 minutes et que t'entends toute la prison, tout le monde qui crie, tu te dis quand même, les mecs, ils mettent 45 minutes à venir, c'est vraiment qu'ils en ont un arbre en l'air de nous, quoi.
Donc il y a ces balades-là, et puis après t'as les activités, j'imagine.
Non, il n'y en a pas, non.
Ah, c'est
en centre carcéral que t'as des activités.
Ah, okay.
En maison d'arrêt, c'est quand même très peu proposé. Après, comme je te dis, peut-être que dans les plus récentes, mieux équipées, mieux fonctionnelles, il y en a plus. Mais là, à part ça, on rentre la promenade, à midi, on mange. Il y a donc le chariot de la cantine qui passe et qui nous propose ce qu'on veut manger. Il y a un peu de choix.
Mais tu manges dans ta cellule ?
Mange dans sa cellule,
manges pas avec les autres.
Non, non. Donc il y a un peu de choix, c'est souvent dégueulasse. Ça m'est déjà arrivé de manger des trucs surgelés. J'ai dû laisser dans ma cellule au soleil pour que ça soit chaud. Donc là, tu te dis que t'es vraiment dans la merde, quoi. Et le seul truc qu'on bouffait le plus, nous, c'était du pain, en fait. On se gavait de pain, on achetait beaucoup de trucs à tartiner parce que le pain, ça cale, en fait.
Ouais.
Donc on mangeait beaucoup de pain. Et puis après l'après-midi, on avait une promenade. Et après, le reste du temps, on était dans notre cellule, devant la télé, quoi.
Ah, il y avait la télé?
Ouais.
OK.
On avait quoi, 9 ou 12 chaînes, comme ça, un truc.
Et tu peux faire du sport et tout? Enfin, tu le fais dans ta cellule?
Il y avait une salle de sport, nous, mais en fait, elle est tellement... Il y a tellement de gens qui veulent faire du sport en prison que du coup, t'as beau postuler toutes les semaines, parce que tu peux demander un papier pour postuler. Et ils me disaient, pour postuler, il faut s'acharner.
OK.
Donc, t'as beau postuler toutes les semaines au moment où t'as le droit de donner des papiers et des courriers, que c'est pas pour autant que tu peux y aller. Il faut que ça se vide, en fait.
Ah ouais.
Faut qu'il y en ait moins qui sortent ou qui arrêtent pour pouvoir faire place à d'autres.
Ok. Est-ce que il y a des gens qui viennent te voir un peu au parloir à ce moment-là pendant ces 4 mois, parce que t'es resté 4 mois en maison.
6 mois en tout.
Ah, c'est 4 mois en maison d'arrêt?
Non, je suis resté au même endroit. Ah, c'est juste que j'ai changé. Le violeur, là, il est resté 2 semaines avec moi. Le gars avec qui j'étais, qui a fait sa dépression, il est resté 4 mois. Et après, j'ai eu un autre colocataire qui était un gars d'Admas, là où je vis maintenant. Et qui était un gars super cool, un petit jeune de 22 ans qui s'est fait arrêter pour du shit. Non, franchement, un gars, c'était hyper agréable de vivre avec lui les 2 derniers mois.
Okay.
Et puis, du coup, ça fait 6 mois en tout.
Donc, t'es resté 6 mois en maison d'arrêt.
Mmh.
Ok. Et donc, il y a des gens qui sont venus te voir un peu pendant ces 6 mois.
Ouais, mais j'ai réussi. Les demandes de parloir, t'as le droit qu'au bout de... Enfin, il y a un délai, en fait. Tant que ça soit traité, que le juge accepte, que les personnes qui veulent te voir remplissent les documents. coup, j'ai mis 2 mois pour avoir quelqu'un. Ouais. Après, pendant les 4 mois qu'on suivit, bah, c'est toujours ma famille qui venait, quoi. Mes grands-parents, mes parents, mes petits frères.
Donc là, ils ont été au courant, quoi, de...
Ah ouais, mais bon, ouais, ils ont quand même mis un mois, peut-être 2-3 semaines, un mois à s'en rendre compte, quoi.
Ouais. Et comment ils étaient avec toi? Est-ce qu'ils t'en voulaient?
Ouais, c'était choqué, quoi. Enfin, ils comprenaient pas.
Et ils devaient être tristes aussi.
Ah ouais, bah, à chaque fois qu'on se voyait, la prison était pas très loin de chez mes parents, donc c'était cool. Ils pouvaient y passer sur le chemin du retour du travail. Du coup, ils venaient 3 fois par semaine, mais les 3 fois par semaine, on pleurait, quoi.
Ouais, toi aussi.
Ah bah oui, bah, quand on voit ses parents pleurer, c'est à moins d'être vraiment quelqu'un avec un cœur de pierre, c'est dur de pas faire de même, quoi.
Donc c'était principalement ta famille. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui sont venues, un peu des
amis?
Non,
il n'y a aucune autre personne qui a pu... c'était que ma famille.
Comment t'as vécu ça pendant 6 mois? Est-ce que, c'est quoi les réflexions qui te traversaient? Est-ce que tu t'es dit, putain, j'ai fait de la merde? Est-ce que tu t'es plutôt dans un truc à te dire, c'est fini, j'arrête la drogue? Ou alors, j'ai hâte de ressortir pour continuer? Je sais pas, est-ce que...
Bah, franchement, au début, on est un peu en mode anti-système, quand on voit les conditions de détention et tout ça. Ouais.
Tu sais que d'ailleurs, il y a des vidéos qui circulent sur TikTok, mais je pense que c'est pas en maison d'arrêt, mais vraiment en prison, où tu vois des vidéos de mecs, je pourrais te montrer tout à l'heure, en cellule, où ils sont bien, toute proportion gardée, hein, mais ils ont des petites lumières, ils ont une super télé, un super frigo, genre vraiment comme si c'était une chambre d'ado, tu sais, une petite chambre d'ado.
Ouais, ça c'est les centres carcéraux, c'est pour les gens qui font des longues peines, donc je me dis bon... Quand t'es 6 ans en taule, avoir un bel écran.
Ils ont leur téléphone, ils ont un téléphone.
Bah écoute, moi ça, ça me choque pas.
Ça te dérange pas?
Enfin, franchement, les gars, ils vont faire 6-7 ans. Enfin, il y a une différence entre purger une peine et être torturé, quoi. Je pense que personne mérite d'être torturé, puis après, ces gens-là, ils vont ressortir. Donc, c'est pour qu'ils passent 6 ans privés de tout, à vouloir encore plus détester le système après. Comment tu veux que ces gens-là, en ressortant, ils deviennent bons avec leur prochain, hein, qu'ils aient des valeurs, qu'ils fassent en sorte de faire avancer la société? Un minimum, enfin, les gens qui sont choqués par ça, je pense qu'ils devraient peut-être plus réfléchir aussi à ce que vont devenir ces gens-là en sortant. Si avoir un téléphone, un bel écran plat, ça fait qu'en sortant, il ne va plus faire de conneries, avoir une vie rangée, bah, pourquoi pas en vrai.
Ouais, je comprends. Et donc pendant ces 6 mois, comment tu vis ça, la vie en prison?
Bah écoute, dès que j'ai eu mes parloirs, mine de rien, quand tu fais tes promenades, que tu vas à la douche, que t'as tes parloirs, que moi j'avais cours l'après-midi, c'était bien parce que c'était juste après la promenade de l'après-midi, donc ça me gâchait pas tout mon temps. Au final, tes journées sont quand même plutôt bien remplies. Puis moi, je lisais beaucoup. En plus, c'était cool parce que vraiment, j'adorais lire quand j'étais gamin. J'avais un peu arrêté parce que j'avais le train de vie qui le permettait pas. Du coup, ça m'a repassionné de lecture. Du coup, maintenant, j'ai toujours un bouquin sur moi. J'aime bien, moi, tout ce qui est bouquin de fantasy et tout ça. Et la science-fiction et tout. Et en vrai, c'est ce qui m'a le plus aidé à sortir un peu de ma cellule, quoi.
Mais est-ce que tant mieux, c'est parce que t'as réussi à t'occuper et t'occuper l'esprit et t'occuper les mains et tout ça. Mais est-ce que t'as justement, tu te dis, parce que t'as pris combien au total? T'es resté 6 mois, mais t'as pris...
Je suis resté 6 mois, je suis sorti en attente de ton jugement. Tant que t'as pas ton jugement, en fait, tu peux pas faire un aménagement de peine. Et le seul truc que t'as le droit de faire, c'est un peu le système comme les Américains avec des cautions, c'est qu'il faut que ton juge d'application des peines, donc c'est celui qui a chapeauté, qui a donné toutes les autorisations à la police pour te surveiller, etc., et t'incarcérer, il faut que lui, il estime que t'es plus un danger pour la société, que t'as fait quand même un peu assez de prison, et qu'il dise, je te mets en probatoire, donc ça veut dire que tu sors et tu vas au commissariat, à une certaine fréquence, pour bien prévenir que t'es là, que tu travailles, tu montes des documents, comme quoi t'as une fiche de paye et tout machin. Et ou alors, il peut décider, lui, directement de t'aménager ta peine.
D'accord.
Mais en général, ça leur prend beaucoup de temps, et ils ont beaucoup de choses à faire, ces gens-là, parce que le système judiciaire français, il est quand même un peu en sous-effectif, même beaucoup. Donc du coup, eux, s'ils peuvent se décharger de ça, ils le font. Donc du coup, lui, il a refusé de me mettre un bracelet en sortant.
Okay.
Il m'a dit, tu seras en probatoire. Donc, tu auras quand même pratiquement toutes tes libertés. Parce que, bon, passer 15 minutes au commissariat toutes les semaines, je trouve que c'est pas cher payé pour tout ce que j'ai fait. Et dès que tu auras ton jugement, donc j'ai eu le jugement 1 an après être sorti, tu as ta peine qui tombe. Et en fonction de ta peine qui tombe, là, on réévalue si tu retournes en prison.
Ah ouais, 1 an, putain, je savais pas que c'était si long.
Ouais, c'était très long. Ouais. C'était même 1 an et 3 mois.
Automatiquement, ça a été le cas pour toi.
Bah après, peut-être que si t'es dans une région où, effectivement, tu te fais incarcérer directement et qu'il n'y a pas énormément de délinquance, peut-être que ça passe plus vite. Mais là, on parle quand même de la ville de Lyon. je pense que c'est comme Paris, comme Marseille, c'est des grandes villes, donc il y a sûrement peut-être un décalage entre toutes les peines qui sont prononcées et l'effectif judiciaire qui doit les appliquer, quoi.
Ouais.
Donc ouais, là, ça prend 1 an et 3 mois. Donc j'apprends que je prends 2 ans et demi de prison ferme.
Ok. De prison donc, ferme, quoi.
Ferme, ouais. Et du coup, là, mon avocate, elle m'explique que c'est nickel. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait 6 mois. Donc du coup, on enlève 6 mois à 2 ans et demi, ça fait plus que 2 ans. Et elle me dit, à partir de 2 ans, on peut faire une demande d'aménagement de peine pour que du coup, tu effectues ta peine avec un bracelet.
Ok.
Donc du coup, on fait la demande. Sauf que ça, c'est le juge d'application des peines qui doit s'en occuper, que je vois que 1 an et demi plus tard. Et là, à ce moment-là, ils m'ont mis mon bracelet pendant pratiquement 1 an et quelques.
Donc t'avais un bracelet ou comme ça, ouais. Ils savaient où est-ce que t'étais?
Alors, c'est pas géolocalisé un bracelet.
Okay.
En fait, mon bracelet, il est relié à un espèce de téléphone,
okay,
qui est dans ton appartement, qui a été, paramétré par un technicien du SPIP. Donc, c'est l'espèce d'agence gouvernementale qui gère la réinsertion des jeunes, enfin des jeunes délinquants ou des délinquants tout court, et qui gère l'application de la peine correctement. Et en fait, ce technicien, il va évaluer un périmètre dans ton appartement, et t'as le droit de sortir de ce périmètre qu'à certaines heures ou pour aller travailler. Et tout ça, c'est calibré en fonction de ton travail, ton emploi du temps que t'envoies à la SPIP.
Et ça fait quoi si tu le fais pas, enfin si tu n'écoutes pas ça?
Eh ben en fait, ton téléphone sonne, et si t'es pas à côté pour répondre, t'es dans la merde.
Voilà. C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il t'appelle sur ton téléphone portable après, et si t'as pas les bons justificatifs, ou si t'as pas une bonne raison, eh ben ils peuvent clairement te renvoyer en prison, ou alors décider que tu seras en conditionnel, c'est-à-dire que tu iras dormir en prison tous les soirs et travailler la journée.
D'accord.
Et
parce que tu peux pas dire oui, je suis sorti parce que j'avais besoin de m'acheter des clopes. C'est pas du tout une raison valable.
Ouais, t'organises autrement. Ouais.
J'avais besoin de m'acheter un petit pain au chocolat. J'avais faim.
Ouais, bah non, bah après, bon, quand t'as un bracelet, là j'avais une autre copine à ce moment-là.
Ouais.
Donc heureusement, elle m'a pas mal aidé quand t'as besoin de faire des courses, des trucs comme ça.
Ouais.
Mais elle faisait des études d'avocat, donc elle était en train de passer le barreau. Donc.
C'est étonnant quand même que.
Ouais. Ouais. Ouais, bah je sais pas, des fois il y a peut-être des chemins de vie qui qui s'attirent ou qui s'opposent.
Mmh.
Mais j'ai beaucoup de copines ou de copains qui font du droit bizarrement. Okay. Et du coup, ouais, elle m'a pas mal aidé, mais c'est vrai que c'était une organisation. En plus, moi j'étais manager d'un fast-food à ce moment-là. Donc
Tu veux dire après?
Ouais, au moment où j'ai eu le bracelet.
Ouais, OK.
J'étais manager dans un fast-food, et les horaires en restauration rapide c'est ça. Tu peux un peu déborder, ouais, faire des heures sup.
Ouais.
Et c'est vrai que bah, des fois, il fallait que je me dépêche de prendre mon téléphone pour appeler on va dire le standard de la SPIP et leur dire, voilà, je vais finir plus tard le travail. Du coup, après, il faut s'arranger pour justifier ça. Donc, il faut que tu sortes tes horaires de la badgeuse.
Mm.
Donc, il faut aussi que tu aies un travail qui te permette de justifier ça. Et des fois, puis moi, je ne disais pas à mes employeurs que j'avais un bracelet.
Mm.
C'est se tirer une balle dans le pied.
Mm.
Donc, du coup, il faut aussi avoir un job qui te permette de justifier tout ça sans que ça soit trop visible et tout, quoi.
Podcast. Je pense juste un truc, parce que c'est vrai que je t'ai pas du tout posé la question. Parce que quand on a un peu l'image des dealers, on imagine vraiment genre une fast life de ouf, hein.
Ah, mais ça a été le cas, ouais.
Genre des petites orgies, des trucs.
Ouais, ça a été le cas. Ah, ouais.
Bah, tu m'en parles pas, Kevin.
Ah, mince, désolé.
Attends, nous, on veut tout savoir. Donc, t'as vécu tous ces trucs-là?
Non, ouais, j'ai vécu.
T'as vécu vraiment les trucs de teuf, d'orgie, de.
Ouais, ouais, ouais.
On baisse à droite, à gauche.
Ouais,
de...
ouais, plus ou moins, ouais. Après, moi, j'avais quand même une copine à ce moment-là.
Ouais.
Donc, moi, j'ai fait tout ça. Donc, j'étais pas non plus en train de charoter tout ce qui bouge.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai qu'on avait une relation qui était assez libre, quoi.
Mm.
On était ensemble, on vivait ensemble, mais on se permettait de faire des trucs souvent ensemble même.
Mmh.
Mais ouais, il y a tout ce milieu. Et puis elle, c'était une fille qui était, elle était de base, elle était lesbienne.
Mmh.
J'étais un peu son premier mec.
Mmh.
Donc du coup, elle avait aussi toujours de l'attirance pour les filles. Donc il y avait un peu ce truc où on était vraiment un couple d'originaux, quoi.
Mmh.
Donc le mec qui deal, sa copine qui aime les meufs.
Mmh.
Il y avait un peu ce truc. Mais après, c'est pas pour autant que voilà, notre objectif, c'est pas non plus de baiser tout ce qui bougeait. De,
mmh. Oui, mais c'est des choses que vous avez vécues et que toi, t'as vécu.
Ah ouais, clairement. Ouais. Non, on se faisait des week-ends à Berlin. Donc après, dans l'imaginaire collectif, quand on va à Berlin,
ouais,
qu'on aime la techno, on sait très bien que là-bas, il y a une culture, on va dire, culture du sexe et de tout ce qui est
le libertinage,
ouais, qui est assez poussé. Donc ouais, c'est vrai que quand on allait là-bas, on s'amusait bien, quoi.
Ouais.
Mais c'est quand même des trucs où... T'as aussi le double tranchant. Si on commence à trop aimer la fast life et qu'on tient à son couple, il y a un moment où...
Bah, il y en a un qui dégrin, enfin, ça se casse, ouais, la gueule,
ouais,
à un moment.
Ah bah ouais, ouais. Puis surtout, ouais, que quand c'est tout le temps moi qui ramenais des filles, c'est pas forcément elles...
C'est que les filles que vous ramenez...
Ouais, on faisait... Ouais, bah, les filles, elles, donc, de base, donc... Donc c'était tout le monde, moi, qui m'entendais bien avec une meuf et qui l'a ramenée à l'appartement et que elle avait pas forcément eu d'occasion de choisir ou quoi que ce soit. Bah tu sais, au bout d'un moment, tu commences à te dire, voilà, en fait, il a plus envie de moi, quoi. Donc,
ouais, bien sûr.
Donc du coup, ouais, tout ça a fait que ça a aussi mené notre couple à sa dégringolade, quoi.
Ouais. Et ça, tu l'as vécu, tous ces trucs de sexe, etc. Tu l'as vécu qu'avec elle, il n'y a pas eu d'autres histoires
Ouais, j'ai vécu ça qu'avec elle. Ah,
ok. Et l'autre question, c'était justement, parce que tu as été un peu rapide, quand tu étais en prison, justement,
ouais.
Est-ce que tu te disais des choses en te disant, quand je vais sortir, il se passera ça?
Ah oui, je me suis interdit de redealer.
T'es interdit de redealer?
Ah, interdit. En fait, c'était tellement dur de voir ma famille. Enfin, dur, ça me faisait du bien de les voir.
Ouais, ouais. Mais oui, non, mais de les voir mal, quoi.
Ça me faisait de la peine pour eux, quoi. Ouais. Et d'un autre côté, j'avais besoin qu'ils viennent parce que ça me. Mine de rien, le temps d'aller de ma cellule jusqu'au parloir, bah, te faire fouiller et tout ça, ça prend 30 minutes.
Ouais.
Plus tu passes 30 minutes avec eux, plus tu repasses 30 minutes à te faire fouiller. Puis au parloir, ils ont le droit de te donner des affaires. Tout est contrôlé, c'est dans des sacs. Mais du coup, je récupérais des fringues, je récupérais des bouquins. Enfin, du coup, c'était quand même coupé. Je savais aussi si ma mère m'avait laissé un peu d'argent sur le compte bancaire de la prison pour que je puisse cantiner des trucs. Donc, mine de rien, ça me faisait du bien et c'était utile pour moi.
Mais donc, t'avais plus envie de dealer pour eux, pas pour toi?
Ah ouais, je l'ai clairement fait pour eux.
Ah, c'est marrant que c'est pas du tout un truc de « je ne veux plus, moi, me remettre dans cette situation-là parce que j'ai vécu un enfer et j'ai plus envie de revivre ça ».
Ouais, non, mais pour être honnête avec toi, moi, je consomme encore, ça m'arrive. Ouais.
De tout?
Ouais, de tout, pas tout en même temps, tout le temps, tous les soirs, mais... Les drogues que j'ai pris et que j'ai eu l'habitude de consommer, je suis pas fâché avec elle. Hein. C'est ce que j'en ai fait qui m'a mis dans la merde. C'est pas ces trucs-là en particulier.
Mais tu t'es pas dit justement en prison, je veux plus toucher à ça?
Non, même pas. En vrai, moi, j'ai vraiment eu des expériences de ouf sous drogue. Je m'intéresse beaucoup aux cultures qui ont consommé de la drogue et comment elles l'ont fait. Et je le fais encore maintenant. Si tu veux voir un jour un bouquin, un auteur qui s'appelle Bernard Weber. Et lui,
il
parle de tout ça, et ça, j'adore ce qu'il fait. Quand tu prends de la drogue, je trouve que t'as des expériences de vie qui sont c'est incroyable.
Ouais.
Donc,
je fais juste quand même un petit mot quand même pour les gens qui écoutent, parce que je te remercie vraiment infiniment de parler de ça de manière tout à fait décomplexée et naturelle. Mmh. Mais cet épisode n'est pas du tout un épisode qui incite à la drogue, hein, vraiment pas.
Tout à fait.
Faut vraiment le préciser, la drogue, c'est pas bien, c'est mal. Et voilà, c'est ce que tu relates de ta vie, de comment tu traverses ça et quelle relation t'as avec la drogue. Mais en tout cas, c'est vraiment pas du tout un épisode, je préfère vraiment le dire. C'est pas du tout un épisode qui met ça en lumière, on vient vraiment mettre en lumière ton histoire et ton vécu. Donc oui, donc toi tu te dis, je vais arrêter de dealer parce que je vois ma famille malheureuse.
Ouais.
Mais j'ai hâte de sortir pour reprendre aussi ta vie. Est-ce que t'avais hâte de reprendre de la drogue aussi, ou alors?
Non, pas forcément. Non. Plus, non, forcément. Enfin, c'est pas un objectif quand je sors ou quand je fais la fête.
Ouais.
C'est plus des concours de circonstances ou.
Tu vas pas en acheter.
Ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive, mais déjà quand je suis sorti et que j'ai fait la fête et qu'on s'est dit, ouais, on en prendrait bien. Déjà, je refusais de commander moi.
Ouais.
Je laissais toujours les autres faire. Enfin, j'étais vraiment, j'ai eu un blocage, quoi.
Et maintenant?
Et maintenant, je le fais toujours. Hein. Ouais. C'est pas le.
Okay. Ouais.
Ça serait quand même con de se faire arrêter. Moi, j'ai encore du sursis là.
Ouais.
Ça serait quand même con qu'un dealer il se fasse arrêter, que je sois le dernier numéro sur son répertoire à avoir été appelé, quoi.
Ouais, bien sûr.
Ça me refoutrait, je pense, dans des sacrés pétrins, quoi.
Il y a des moments où tu t'es redit, et puis merde, pourquoi pas, je vais redealer à nouveau.
Peut-être une fois ou deux, parce que des fois, quand tu bosses pour des festivals, et que, parce que je suis souvent au bar dans des festivals maintenant, pour mon collectif ou pour d'autres collectifs et des événements, et c'est vrai que bon, quand t'es au bar, t'as la proximité, t'as tout le monde, ça pourrait être l'endroit parfait pour le faire. Mmh. Et deux, trois fois, je me suis dit, putain, je suis un peu en galère de thunes, pourquoi pas le faire? Mais je l'ai pas fait quand même.
Tant mieux, c'est bien. Comment ça se passe la réinsertion professionnelle?
Bah, c'est pas facile avec le...
Franchement, ça doit être hardos, quoi.
Ouais, c'est pas facile, parce que sur ton CV, il faut justifier aussi que bon, t'as rien fait pendant 6 mois, enfin,
ouais.
Pas pendant 6 mois, pendant pratiquement 1 an et demi, quoi. Faut justifier que t'as pas travaillé. Faut expliquer pourquoi, des fois, tu peux pas travailler jusqu'à telle heure, pourquoi t'as besoin de ton planning tout le temps, pourquoi t'as besoin de justifier quand tu fais des heures sup. Faut que t'aies des justificatifs assez rapidement. C'est une petite organisation quand même. C'est pas impossible, et le système, il est pas non plus trop mal fait à ce niveau-là. Mais Je pense que c'est quand on est un peu allergique à l'administratif et à ces trucs-là. Moi, ça va, j'ai pas de problème avec ça, je suis assez toqué. Mais j'imagine bien que quelqu'un qui a fait de la prison, qui a pas fait d'études, qui est pas stupide, mais qui est juste pas intégré, qui connaît pas tout ça, ce truc de gérer des papiers et tout, parce que les parents l'ont pas aidé à ce niveau-là, parce qu'il parlait peut-être pas français ou quoi que ce soit. J'imagine que pour eux, ça doit être une galère, mais sans nom, quoi. Ouais.
T'en es où aujourd'hui?
Bah là, aujourd'hui, ça va super bien, vraiment. Ouais.
C'est quoi ta vie maintenant, là?
Bah là, maintenant, ma vie, c'est, j'ai juste envie de, donc, je travaille à Genève. Parce que j'aime la ville, mais aussi parce que ça me permet de pratiquer mon métier avec des salaires pour moi qui le valent vraiment. Parce que la restauration en France, je suis désolé pour tous les gens qui en font, mais c'est, je trouve ça dur de vivre de ça quand on sait qu'on donne beaucoup, mais vraiment énormément pour les clients et pour son employeur et qu'on n'est pas forcément...
Moi, je l'ai vécu un tout petit peu. J'ai été serveuse en extra le soir pendant, je sais pas, un an. Et je trouvais ça dur, dur, franchement.
C'est pas gratifiant, quoi.
Non.
Les gens, ils disent merci, mais c'est pas vrai... C'est pas gratifiant, quoi. T'as vraiment des fois l'impression... Enfin, moi, clairement, des fois, j'avais besoin, après un service, qu'on me prenne dans les bras, quoi. Ouais. Qu'on me dise, putain, ça va aller, on a été un service assez dur. Ouais. J'imagine qu'il y a plein de métiers pénibles où ça, on aimerait bien ça aussi. Mais là, c'était clairement quotidien, quoi. On avait besoin de... Je dis pas qu'on se faisait des câlins, mais c'est vrai que putain, le soir, quand je rentrais, j'étais content quand il y avait quelqu'un qui m'attendait et que je pouvais passer la nuit à souffler, à avoir quelqu'un qui m'écoute. Et, donc, c'est pour ça que je suis parti à Genève. Et puis là, je pense que c'est temps pour moi de voyager, parce que j'ai 32 ans et j'en ai fait quand même quelques-uns des voyages. Mais là, vu que je fréquente le milieu des festivals et tout ça, je suis amené à rencontrer énormément de gens. Et puis énormément de gens qui font soit la van life, soit le backpacking, soit tout ce qui est du woofing ou des trucs dans le genre. Et ouais, ça me branche de ouf.
Ouais, je comprends.
Même là, grâce à vous, j'ai passé un week-end à Paris. Ouais. J'étais excité comme une puce tout le week-end, rien que le fait d'être ailleurs, rencontrer des nouveaux gens, aller dans des nouveaux lieux. Ben, c'est un truc, ça me booste de ouf.
Bah ouais, je comprends. Donc, c'est excitant.
Donc, du coup, voilà, j'ai besoin de refaire ça, mais pour ça, il faut que je mette de l'argent de côté. Il faut que je finisse de rembourser le prêt que j'ai dû contracter avec ma mère pour tout ce que ça m'a coûté. La procédure judiciaire, parce qu'il faut payer l'avocat.
Ça a coûté beaucoup de sous.
Ça m'a coûté pratiquement 15 000 euros. Ouais.
Ah ouais, putain, c'est vrai.
Donc, en comptant l'amende, les frais de justice, l'avocat. Donc, ça, c'est des trucs qui mettent du temps à se
rembourser. C'est cher payé quand même, hein, tout ça, hein, tu vois.
Ouais.
Et en même temps, c'est peu cher payé.
Ouais, je pense que si on devait faire le compte de tout ce que je me suis fait, que j'ai très du mal à faire, je pense que, on est sur une estimation qui n'est pas trop mauvaise quand même.
Comment tu perçois, justement, le système un peu pénitentiaire, le système judiciaire et leur impact sur la réhabilitation des détenus? Comment tu perçois tout ça avec ton expérience?
Franchement, je pense que c'est pas encore au point. Vraiment. Quand je vois les gens en prison, comment ils allaient, t'avais les gens un peu comme moi, t'en as pas beaucoup, mais qui avaient fait un peu d'études ou qui étaient pas non plus en marge de la société. Eux, je pense qu'ils ont des chances de s'en sortir. Après, ça dépend ce qu'ils ont fait et plein de facteurs, mais je pense qu'ils sont déjà mieux armés pour s'en sortir. Mais par contre, les gars... les gars qui savent pas s'exprimer, il y en a plein, ils savaient même pas écrire. Moi, j'ai écrit des lettres pour des gens en prison parce que le gars, il savait pas écrire, quoi. Donc, je pense que tous ces gens-là qui ont pas de facilité, qui ont peut-être pas forcément eu la chance d'étudier dans de bonnes conditions et qui ont une vie assez difficile, je pense que c'est là ces gens-là, ça doit être plus. Je pense que ça doit être impossible, limite pour eux, la plupart du temps, de se réinsérer, quoi.
Ça doit être très très difficile, quoi. Je sais pas par quoi ils passent. Mais oui, ça doit être très compliqué, ouais.
Puis surtout qu'en fait, le problème, c'est qu'en prison, tu t'es amené à rencontrer d'autres gens, quoi.
Oui.
Et si t'as le malheur de bien t'entendre avec eux et qu'en sortant, ils te proposent de faire des trucs illégaux avec eux, parce qu'en plus, tu ressors, t'as besoin d'argent. Donc, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, je vais refaire pareil, mais peut-être en mieux ou différemment. Et du coup, t'es tenté. Puis vu que c'est la seule fois qui s'offre à toi, tu le fais. Donc, je pense qu'après, c'est un cercle vicieux,
Quelle leçon, toi, tu retiens de ça? Tu vois, de toute ton expérience de la prison, de tout ce qui a pu se passer
La leçon, ouais, c'est que...
La leçon, ouais.
Ouais, j'en ai tiré plein des leçons, il n'y en a pas une en particulier, mais c'est juste que si c'était à refaire, je le referais, parce que je pense que j'avais une... La personne que je suis maintenant, grâce à ça, je la trouve beaucoup mieux qu'avant. Je pense que ça m'a fait gagner en maturité, j'en avais vraiment besoin.
Tu penses que sans ça, t'aurais pas...
Ou ça aurait mis plus de temps.
Ouais.
Où j'aurais peut-être pas la cogite que j'ai maintenant et j'aime bien, clairement j'aime bien ma façon d'analyser tout ce qui m'est arrivé. Mais pour ça, il faut que ce soit, faut que ça ait pu avoir lieu. Et ouais, peut-être la leçon, peut-être j'aurais peut-être dû faire ça dans un autre pays au final, parce que le système carcéral français, il est quand même chaud, quoi. Quand je vois les autres pays, dans les pays du Nord, les trucs comme ça, ils ont quand même une autre façon de réhabiliter les gens. Après, il y a peut-être moins de délinquance ou quoi. Mais je sais pas si t'as vu le, t'as le, comment il s'appelle, le gars en Suède qui a fusillé des gens sur une île. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'est un drame de société qui a quand même 15-20 ans.
Ouais.
Et ils ont fait une visite de sa cellule il n'y a pas longtemps. Là, c'est passé sur les trucs comme Brut, Combini et tout ça.
Ouais, j'ai pas vu.
Et c'est passé. En fait, le gars est en train de faire le procès du siècle là-bas parce qu'il se dit qu'il est dans des mauvaises conditions d'incarcération.
Mais si tu regardes comparé.
Et en fait, c'est filmé. Il a un trois pièces, le mec, quoi.
D'accord.
Une salle de bain, salon, cuisine, tout équipé. Enfin, je connais des gens à Paris ou même à Lyon. Ils n'ont pas ça, quoi.
Ouais.
Et le mec se plaint parce qu'il trouve que ses conditions d'incarcération sont mauvaises. Donc, bon. Je me dis que c'est pas une leçon vraiment que j'en tire, mais je me dis que quand je vois ce qui se passe en France, quand je vois ce qui se passe dans d'autres pays, je me dis que s'ils arrivent à le faire là-bas, c'est peut-être pas impossible qu'on y arrive nous non plus.
Et c'est marrant parce que du coup, la leçon, elle te concerne pas au final. C'est-à-dire que ce que tu retiens de cette histoire-là, c'est plutôt tiens, il s'est passé ça, de ce que j'ai vu en prison, ça se passe comme ça. Mais t'es pas du tout dans un truc de ce que je retiens, de ce que moi j'ai vécu en dealant, en tout ça. Tu vois, ça se joue pas du tout à cet endroit-là.
Après, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais je regrette d'avoir fait tout ça. Quand je dis c'était à refaire, je le referais.
Mais je comprends quand tu dis ça.
D'une certaine façon, tu vois, genre, si j'aurais pu gagner en maturité d'une autre façon, ça aurait peut-être été mieux aussi.
Bah ouais, ouais.
Mais la leçon que je retiens, oui, c'est que il faut pas le faire. Moi, quand j'ai des amis ou quand je rencontre des gens qui le font, c'est le premier réflexe que j'ai, c'est de leur dire ce qui m'est arrivé et de leur dire que c'est... Enfin, si t'as besoin d'argent, trouve un autre moyen de t'en faire parce que quand ça va te tomber dessus, mon coco, tu vas rien comprendre, quoi. Et puis ça va pas être facile. Mais après, bon, t'es pas là non plus pour faire... pas parce que j'ai fait de la prison que je vais être Jean-Michel Moral et...
Non.
Et genre me sentir en droit de dire aux gens de pas se faire ci ou de pas faire ça. Après, les gens, ils sont aussi libres de faire leurs propres erreurs, quoi. Moi, j'estime qu'à partir du moment où on fait de peine à personne et on fait de mal à personne, et je pense pas avoir eu cette démarche-là dans tout ça. Mon but, c'était pas de rendre les gens mal ou malades ou de faire du mal ou de les blesser.
Oui, t'as pensé à toi, un confort de tiens, ça me fait de l'argent.
Voilà, c'est ça.
Avec ma meuf, on peut faire ça, on peut faire ci.
Exactement.
Ouais, sauf que en fait, à répercussion, tu vois, ça fait mal à ta famille et tout ça, etc.
Exactement,
évidemment,
ouais.
C'était pas du tout l'intention première. Mais non, je comprends ce que tu veux dire. Et en même temps, tu vois, moi qui suis d'un regard où genre vraiment la drogue, pour moi, ça a vraiment toujours été un truc qui me parvient pas parce qu'en fait, j'ai jamais testé, tu vois.
Ouais.
Et je sais que très bien, je ne testerai jamais parce que je sais très bien que si je teste, je pense que je tombe.
Ouais, ouais.
Tu vois, je vais dedans, tu vois, j'ai ce tempérament addict aux choses. Mais je trouve quand même, tu vois, qu'on parle d'un sujet qui, en effet, n'est pas du tout de l'ordre du viol ou, tu vois, d'un massacre, où on n'est pas dans ce cas de figure-là. Mais c'est quand même aussi un truc où on va faire du mal aux gens. Tu vois ce que je veux dire, involontairement, en vendant quelque chose qui vient nous niquer la gueule, quoi, tu vois.
Ah ouais.
Donc c'est là où je me dis, bon, tiens, est-ce que il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau-là? Mais pour l'instant, peut-être t'en es pas là encore, je sais
non,
pas.
Non, ouais, puis c'est quand même
peut-être tu vois pas les choses comme ça. Hein.
Ouais, puis c'est compliqué, parce que quand on est amené à fréquenter ce milieu, il y a quand même un truc où on rencontre beaucoup de gens, et des fois qui viennent d'ailleurs.
Ouais.
Et c'est vrai que il y a une moralité qui est propre à l'être humain, je pense, et qui est propre aussi aux lois d'un pays et tout ça. Et c'est vrai que des fois, quand on a beaucoup de discours différents, beaucoup de débats avec des gens qui viennent d'autres pays, c'est pas la même législation, ça se passe pas pareil. Tu vois, par exemple, tu vas à Amsterdam, tu vas dans des shops, ils te vendent des drogues qui sont juste pas encore interdites. Et ça change tout le temps. Tu peux acheter des champignons hallucinogènes, tu peux acheter du shit, de la weed. Tu te dis, putain, on est quand même en Hollande, quoi. On n'est pas au fin fond de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud. C'est quand même un pays en pleine Europe qui est hyper civilisé, hyper... Pourquoi là-bas, en fait, on peut? Pourquoi ici, on peut pas? Et au final, l'alcool, c'est pas aussi... pourquoi on a le droit d'en vendre? Parce que ça tue aussi des gens.
Tout à fait.
Et la cigarette aussi. Donc,
tu fumes des clopes, toi?
Ouais, beaucoup, ouais. Enfin, beaucoup. Qu'en soirée. Mais c'est vrai que quand je bois, j'ai un peu, j'ai un peu la clope qui
facile.
S'allume. Ouais, la clope facile, ouais, exactement. Mais ouais, t'arrives à te poser toutes ces questions. Et puis, il y a un moment où tu te dis, putain, quand même... puis, il y a aussi même des films qui parlent de ça, qui imaginent des fois des sociétés un peu avancées où tout ça serait légalisé. Enfin, c'est quand même un vrai sujet de discussion, je trouve.
Tu parles peut-être pas... Tu parles de toutes les drogues? Parce qu'au final, tu vois, la beuh, c'est vrai, en effet, t'as raison, il y a quand même des bénéfices à ça.
Ouais.
Mais à la clope, t'as aucun bénéfice.
Ah non, ça c'est sûr.
Et à la coke,
ça c'est sûr.
Il y a pas de bénéfice. La beuh, oui, en effet, il peut y avoir des vertus.
Ouais, c'est thérapeutique. Ouais, pas de souci. Mais quand moi je suis allé en Hollande, il y avait clairement des shops qui te vendaient genre des trucs en poudre et marqué effet. Enfin, c'était écrit en hollandais, mais le gars quand il te le vend, il me dit voilà, c'est que des produits naturels qu'il y a dedans ou qui sont pas encore peut-être des molécules qui sont pas encore testées machin truc, mais ça va te faire les mêmes effets. Donc pourquoi on te vend ça de façon légale? Ça n'a aucune vertu thérapeutique non plus derrière.
Ouais, voilà.
Et pourquoi on te vend ça de façon légale? Et l'argument commercial, c'est de te dire ça va te faire comme ça, qui est juste interdit en fait.
Non, mais par contre, tu soulèves un truc qui est juste et important, c'est l'alcool et les cigarettes. En vrai, tu vois, c'est de la drogue, hein, vraiment.
Parce qu'il y a des lobbies derrière, je pense, surtout.
Bah, c'est sûr, évidemment, ouais. Ça rapporte de l'argent et on vient bien culpabiliser les gens en disant attention, il ne faut pas trop boire. Bah oui, mais les gars, on peut en acheter partout.
Ouais, c'est
pas forcément que de la faute du consommateur, ouais. C'est important aussi de le dire, tu vois.
Bon, après, pour défendre l'alcool, quand même, parce que c'est mon métier, la cigarette, pour le coup, il y a vraiment aucun truc qui peut sauver ça. De l'alcool, quand même, il y a quand même un truc de savoir-faire, d'artisanat.
Oui, bien sûr.
C'est quand même un truc de goût.
Oui,
mais on est quand même d'accord que l'excès, ça peut mener à des drames.
Oui, et puis c'est surtout que tu peux acheter des flashs de je sais pas quoi n'importe où, tu vois. Et qu'il y a pas de... Et puis pour le coup, je pense qu'il n'y a aucun aspect positif, tu vois, quand tu goûtes le truc. C'est pas de la bonne. C'est pas du
non,
bon
c'est
alcool,
pas de la bonne
tu vois,
cas, c'est
pas
c'est
de la bonne qualité. Mais ouais, c'est tout le paradoxe et tout le truc où on vient blâmer les gens, tu vois, en disant. T'es quand même une sacrée merde.
Ouais.
Mais en même temps, on c'est te ouf, met tout ça sous le nez. Donc c'est assez paradoxal. C'est comme les gros, en vrai, c'est très con. Hein. On va tout le temps blâmer les gros, alors qu'en vrai, bah, on devrait parler justement des lobbies, de tous ces trucs de sucrerie où on dit il faut pas manger sucré. Hein,
ouais.
Mais vous nous vendez tout ça, les gars. Donc en fait, c'est vous les responsables, c'est pas tant les consommateurs.
Ah ouais,
même si on est responsable, bien sûr.
T'as envie de manger un truc en deux-deux à ta pause déj. Tu vas au supermarché, tous les trucs que tu fais réchauffer,
exactement.
Les sandwichs, c'est que des produits ultra transformés.
Ouais, bien sûr. Donc évidemment, les consommateurs, ils sont responsables, mais il ne faut pas tout mettre non plus sur le dos des consommateurs. Quoi.
De toute façon, mais, ça, c'est une technique qui a lieu de partout, hein, même pour l'écologie. On va dire que c'est de notre faute parce qu'on ne met pas le thermostat au bon degré.
Ouais, mais ce n'est pas nous. On voit. Non, mais t'as complètement raison.
Non, mais la culpabilisation du consommateur, c'est un vrai problème en ce moment.
Ouais. Oui, du citoyen, du consommateur. Oui, non, mais complètement. C'est très juste quand on parle d'écologie. T'as dit un truc juste très vrai, quoi. C'est en fait, c'est juste le gouvernement qui fait pas son taf et qui s'emballèque et ils ont d'autres.
À réparer la chaudière de leur château, un truc comme ça. Ça c'est.
Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, on parle d'écologie, mais après, tu vois quelqu'un prendre un jet pour faire un Paris-Marseille, tu vois. Donc, à un moment, enfin, tu vois, on vient encore une fois culpabiliser l'autre constamment. Là, on sort complètement du sujet de la drogue, hein, mais. Mais ça n'en reste pas moins une réalité où on vient toujours pointer l'autre, alors qu'en fait, bah, c'est juste le gouvernement qui prend pas suffisamment, selon moi, place, quoi.
Ouais.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire pour terminer, un truc que t'as pas abordé ou un truc qui te semble important
Bah écoute, on a, dans la chronologie des choses, on a, je pense qu'on a un peu parlé de tout. Après, c'est vrai que pour finir un peu sur ce qui m'est arrivé, bah, une fois qu'on m'a enlevé mon bracelet, ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup. T'as ton sursis qui commence. Et quand même, mon sursis a commencé peut-être 3 ans et demi après que je sois sorti de prison, quoi. Donc, quand on te met 5 ans de sursis, mais qui s'applique 3 ans et demi après ta fin de. En fait, c'est comme si on te mettait 8 ans et demi, quoi.
Oui.
Et ça veut dire que si t'as le malheur de te retrouver pendant 5 ans au mauvais endroit, au mauvais moment, même si t'as un petit peu pris les mauvaises décisions, et bah, bam, t'as une peine qui peut retomber et tu peux refoutre ta vie en l'air, quoi. Et ça, je trouve ça mal fait. On a l'impression de dire qu'une épée de Damoclès sur la tête tout le temps. Puis en sachant que t'as quand même un casier judiciaire qui est chargé, donc tu peux aussi avoir du problème après, plus tard, pour trouver du travail ou quoi
que
ce soit.
Ouais. Mais et en même temps, c'est aussi une manière de te dire attention, t'as quand même bien fait de la merde, mon gars. Non,
ouais,
mais c'est vrai. Tu vois, il y a aussi cette réalité. Je comprends qu'il te fait chier et que tu. Bien sûr. Et la réinsertion et tout ça, évidemment, ça pose problème. Mais aussi. Faut pas minimiser non plus, tu vois.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que les délais, on va dire, de justice, ils sont à notre charge au final.
Ouais, ouais.
C'est nous qui les subissons. Donc ça, je trouve, c'est un peu culotté quand même. Après, peut-être qu'ils en tiennent compte dans les peines aussi. Hein. J'en sais rien, je suis pas assez spécialiste en la matière, mais nous, c'est comme on le reçoit en fait. On le ressent de cette façon-là. Donc c'est un peu. Ouais, c'est un peu dur, je pense, de sortir de tout ça et de se dire, ah, la justice française est quand même bien, on est dans un beau pays. C'est un peu, on ressort de là-bas, on est un peu quand même, on a un peu les boules, quoi.
Ouais, je comprends. J'imagine.
Donc, puis surtout les gens qu'on rencontre en prison, ils nous font réfléchir de ouf, quoi.
Ah ouais.
On se dit, putain, mais il y a tous ces gens-là là, qui vivent en fait, dans le même pays que moi et quand sont là, qu'on fait ça. Mmh. Parce que les histoires de vie, t'en as plein. Mmh. Quand tu disais, j'ai vu du truc dégueulasse, j'ai vu un gars se faire arracher l'œil à la petite cuillère le jour de ma libération.
Quoi ?
Arracher l'œil à la petite cuillère.
What ?
Genre, je suis passé dans le couloir, j'étais libérable, comme on dit. Et j'ai vu une bagarre dans la cour. Le maton, il m'a dit non, bah, tu ne sors pas tout de suite. Il m'a mis dans une espèce de cellule spéciale parce qu'il y avait trop de mouvements dans la prison. Et quand il m'a fait sortir, j'étais devant la petite cellule qu'on met là où on met les gens qui vont à l'infirmerie. Et là, il y avait un gars qui avait l'œil, enfin, je ne sais pas si on a réussi à lui arracher l'œil, mais il avait l'œil complètement explosé, quoi. Et du coup, le gars, je lui ai parlé et il m'a dit, bah, là, j'attends l'ambulance, en fait. Parce que c'est tellement compliqué la prison pour faire circuler les prisonniers qu'il y a des étapes. J'ai attendu l'ambulance, quoi que ça. Je lui ai dit, mais t'es arrivé quoi ? Il m'a dit, on a essayé de m'arracher l'œil à la petite cuillère. Et c'était un gars, et ça, comme quoi la vie, des fois, je ne dis pas qu'elle est bien faite, mais il y a des sacrées coïncidences. C'est un gars qui m'avait racketté quand j'étais au lycée.
Chais, non, je rigole.
Ouais, c'est un peu ce que je me suis dit, mais voilà, c'était vraiment un truc.
Ah, c'est fou, hein.
Ouais, c'était un peu l'ascenseur émotionnel de la libération à ce niveau-là.
Ouais. Je pense qu'il y a une violence dont on n'a même pas conscience.
Mmh.
Genre, ce que tu racontes là, vraiment, c'est un truc très précis, quoi. Tu vois,
c'est ça.
Où c'est... On a vraiment
c'est vrai
pas
que c'est le premier truc que ma mère me demandait tout le temps quand j'arrivais. Elle me disait, t'es sûr que ça va ? On ne te violente pas ? Elle me disait, mais tu sais que tu peux tout nous dire ? Enfin, il y a vraiment cette inquiétude là, tout le temps, de savoir... mais tu sais que si t'es violenté, tu nous le dis, on dira rien, juste on en parle et tout. Je disais, non, mais tranquille, personne s'en prend à moi. Je m'étais même fait des contacts qui préservait ma sécurité, mais il y avait des gens avec qui tu sais que tu t'entends bien, que t'es cool avec eux, bon, les gens vont pas trop t'emmerder derrière. Il y a un peu cet esprit collège, tu vois, où t'es là, bon, si tes parents t'apportent des beaux habits, que t'as un beau petit survêt stylé, t'entends bien avec le petit caïd du coin, tu sais que t'auras pas trop de problèmes, quoi. Puis à côté de ça, il y a personne pour te couper les cheveux ni la barbe, donc t'as une tête un peu de barjot tout le temps. Donc, ouais, c'est un peu... Il y a un peu un mélange de plein de trucs qui est dur à gérer des fois.
Mmh. Bah écoute, merci beaucoup Kevin.
Mais je t'en prie, avec plaisir.
C'était vraiment hyper intéressant. Je le redis à nouveau, c'était pas du tout un épisode pour faire l'apologie des drogues, etc. Hein, vraiment pas. Enfin, en tout cas, si vous l'avez pris de cet ordre-là, vous vous trompez. J'avais envie d'entendre voilà, ton histoire et ce qui s'est passé dans ta vie, où t'en es maintenant. Donc merci beaucoup.
Mais je t'en prie, merci à toi.
J'espère que cet épisode vous a plu. Alors oui, je voudrais vous lire cette phrase, parce que ça c'est Julien, évidemment, Julien rédac-chef, bien sûr, qui a écrit ça. Je voudrais vous lire cette phrase écrite par le fondateur de l'OIP, Observatoire International des Prisons. La prison voudrait nous faire croire que l'homme qu'elle contient ne nous ressemble plus. Vous avez 2 heures. Allez, c'est une façon pour lui qui était de sensibiliser les citoyens sur le profil souvent varié des personnes incarcérées dans les prisons françaises. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur Twitch et sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine. Même studio, même micro. Je vous embrasse. Ciao. Podcast. Podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.